السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله. En cette soirée du samedi 25 Jumada al-Oula 1434 de l'Hégire, correspondant au 6 avril 2013, bi'idhnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, avec Riyad Salihin, les jardins vertueux. On est Inch'Allah ta'ala aujourd'hui au hadith numéro 65. Au hadith numéro 65, Inch'Allah ta'ala. Une seconde et on continue, Inch'Allah. Le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith connu qui parle de trois anges que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés pour éprouver certains gens. Ce hadith, donc, il est long, assez long. C'est pourquoi on ne va pas le lire en arabe et en français, mais on va se suffire, inshallah ta'ala, à le lire seulement en français, bi'idhnillahi ta'ala. Dites-moi d'abord si vous m'entendez, inshallah ta'ala. Et s'il n'y a pas de coupure, s'il n'y a pas de coupure aussi. Alhamdoulillah. Donc, alhamdoulillah. Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Allah ta'ala zom parmi les fils d'Israël. Le premier, un lépreux. Le deuxième, un teigneux. Et le troisième, un aveugle. Ici, juste une petite parenthèse. En fait, le mot arabe ici, le mot arabe ici, qui est abras, en français, il a été traduit par lépreux, mais c'est pas la vraie traduction. Car la lèpre, c'est une maladie de la chair, de la peau, disons. Ensuite, la peau commence à tomber. La chair commence à tomber, subhanallah adhim. Mais la maladie dont parle ici le hadith, non, c'est autre chose. Ce sont des plaques qui apparaissent sur la peau, des plaques qui apparaissent sur la peau, et ce n'est pas la lèpre, bi'idhnillahi ta'ala. Si on arrive à trouver le mot, une fois on l'a trouvé, ça fait 4 ou 5 ans, mais je ne l'ai pas retenu. Si on arrive à trouver c'est quoi la maladie, alhamdoulilah, si on n'arrive pas, vous avez compris de quoi je parle. Une maladie qui atteint la peau. La peau, ça donne une blancheur, des taches blanches sur la peau. Et des fois on a ça sur les doigts, des fois on a ça sur la poitrine, sur le visage, sur le cou, et comme ça, l'eczéma. Une sorte d'eczéma. Mais c'est pas l'eczéma. Non, c'est une maladie qui a un nom un peu difficile. L'eczéma, ça donne des démangeaisons. Et ça, non, c'est une maladie de la peau. Al-Muhim. Le premier, donc, il avait une maladie de la peau. Le deuxième, un teigneux, atteint de la teigne. La teigne, c'est une maladie connue de la chevelure. Et le troisième, un aveugle. Pour ce faire, il leur envoya un ange qui s'adressa en premier lieu à celui qui était malade de la peau. Il lui dit: quel est ton plus cher désir? Voilà, le vitiligo. On a dit que c'était anglais. Non, vitiligo, c'était anglais. En français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Al-Muhim. Donc, il s'adressa au premier. Il lui dit: quel est ton plus cher désir? Il lui répondit: une belle couleur de la peau. Une peau tendre. Et que disparaisse cette maladie qui fait fuir les gens à mon approche. Alors, l'ange passa sa main sur le corps de ce malade. Et il guérit. L'ange passa la main sur la peau de ce malade et il guérit. Sa peau devint saine et retrouva sa couleur naturelle. Quand je vous avais dit, c'est une maladie de la peau, ça donne une couleur blanche, des taches blanches. L'ange lui demanda encore, « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» Il lui répondit, « Les chameaux ou les vaches ?» Le doute vient du transmetteur du hadith. Celui qui a transmis le hadith a dit, je ne me rappelle plus, est-ce que j'ai entendu dire les chameaux ou bien les vaches. Il lui fut accordé une chamelle sur le point de mettre bas. Et l'ange lui dit, qu'Allah Ta'ala la bénisse. Il alla, c'est-à-dire l'ange, il alla ensuite voir le ténieux. Il lui dit, quel est ton désir le plus cher? Il lui répondit, une belle chevelure et que disparaisse ce défaut qui fait fuir les gens à mon approche. L'ange passa sa main sur sa tête et sa maladie disparut. Alors une belle et abondante chevelure lui fut accordée. L'ange lui dit encore, « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» Il lui répondit, « Les vaches. » Il lui fut accordé alors une vache sur le point de mettre bas. Et l'ange lui dit, « Qu'Allah la bénisse. » Il alla, c'est-à-dire l'ange, voir enfin l'aveugle et lui dit, « Quel est ton désir le plus cher ?» Il lui répondit, « Qu'Allah Ta'ala me rende la vue afin que je puisse voir les gens. » Il passa sa main sur les yeux de l'aveugle et il retrouva la vue par la grâce d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Il lui dit alors, « Quelles sont les richesses que tu préfères ?» L'aveugle répondit, « Les moutons. » Il lui fut accordé alors une brebis avec son agneau. J'arrête une seconde car j'ai oublié une chose. Est-ce que vous êtes en train d'enregistrer du début ou bien non? Attends votre réponse. D'accord. Alors on continue, inshallah ta'ala. Il lui fut alors accordé une brebis avec son agneau. Une brebis avec son agneau. Car il lui a dit, quelles sont les richesses que tu préfères? Il a dit les moutons. Il lui fut accordé alors une brebis avec son agneau. Alors la chamelle, la vache et la brebis se multiplièrent tellement que le premier homme se trouva avec une vallée de chamelles, un troupeau de chamelles. Le deuxième avec une vallée de vaches et le troisième avec une vallée de moutons. Il a dit ici d'un lépreux. Il lui dit, je suis un pauvre homme dont les ressources se sont puisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah subhanahu wa azzawajal et toi. Ou si je te conjure par celui qui t'a donné une belle couleur, une peau saine et des richesses, de mettre à ma disposition un chameau afin que je puisse continuer mon voyage. Il lui répondit, je suis désolé, mais j'ai de nombreuses charges. L'ange lui dit alors, j'ai l'impression de te connaître. N'étais-tu pas un lépreux que les gens évitaient, pauvre, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jalla t'enrichisse? L'ancien lépreux rétorqua, j'ai hérité ses biens, génération après génération de mes ancêtres. L'ange lui répliqua, si tu mens, qu'Allah Azza wa Jalla te rende ton apparence initiale. Qu'Allah Azza wa Jalla te rende alors ta maladie. Il alla voir de nouveau l'ange, alla voir de nouveau l'homme qui était teigneux et lui répéta les mêmes propos tenus aux lépreux. Il reçut les mêmes réponses. Il reçut les mêmes réponses, c'est-à-dire que je ne peux rien te donner, j'ai beaucoup de choses à ma charge. L'âme. Il lui a dit, c'est pas Allah Ta'ala qui t'a donné ça. Il lui a dit, non, j'ai hérité ça de génération en génération. Alors l'ange lui a dit, si tu manques Allah Azza wa Jal, te rende ton apparence initiale, te rende ta maladie de la teigne. Et il partit. Enfin, Naam, il alla voir le troisième, c'est-à-dire l'aveugle, sous l'aspect d'un aveugle, et lui dit, je suis un pauvre homme dont les ressources épuisées dans son voyage. Je n'ai aujourd'hui d'autre recours qu'Allah Azza wa Jal et puis toi. Aussi, je t'en conjure, par celui qui t'a rendu la vue, de mettre à ma disposition une brebis pour me permettre de continuer mon voyage. L'homme lui répondit, c'est-à-dire l'aveugle, « J'étais aveugle et Allah Ta'ala m'a rendu la vue. Prends donc ce que tu voudras. Par Allah, je ne te demanderai aucun compte de ce que tu prendras aujourd'hui, et ce, par amour pour Allah. » Mais l'ange lui dit, « Garde tes richesses, car Allah Azza wa Jal vous a mis à l'épreuve. Il est satisfait de toi, mais en colère contre tes deux compagnons. » Rapporté par Bukhari et Muslim, accepté à l'unanimité. Voyez. On va voir donc maintenant, inshallah ta'ala, en arabe. Cheikh bin Uthaymin, rahimallah, dit, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que trois personnes des enfants d'Israël, trois enfants parmi les fils d'Israël. Cheikh bin Uthaymin dit, Israël, c'est Ishaq, le fils d'Ibrahim, alayhi salatu wa sallam, le frère d'Ismaël. Et il a dit, parmi les enfants d'Israël, il y a Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Isa, Jésus, et Jami' ben Israël, et tous ceux qui sont des enfants d'Israël. Kulluhum min duriyati Ishaq, alayhi salam. Tous, ils viennent de Ishaq, alayhi salatu wa sallam. C'est pour ça que Ishaq, c'est qui? C'est Israël. Mais ce que j'ai trouvé un peu ajib, c'est que Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans un autre livre, qui s'appelle Fatawa de Mecca, il dit que Israël, c'est Yaqub, c'est Jacob. Et ici, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, il a dit, Israël, c'est Ishaq. Et quelle est la relation entre Ishaq et Yaqub? Ishaq, c'est le père de Yaqub. Donc, on a qui? On a Ibrahim, alayhi salatu salam, qui a deux garçons. Il a Ismaël et il a Ishaq. De Ismaël sont venus qui? Les Arabes. De Ismaël, ensuite on descend, tout à fait en bas, on trouve Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et entre Mohammed et Ismaël, qui est le premier arabe, il y a deux ou trois autres nabis, prophètes qui sont arabes. C'est tout. En tout, il y a quatre ou cinq. Tous les autres, ensuite, sont les enfants de qui? Sont les enfants de Ishaq. Tous les autres nabis, des milliers, mille et quelques, sont les enfants de qui? De Ishaq. Mille et quelques, plutôt des milliers, 123 000 ou 124 000 et quelques. Taïb. Donc, on répète, Cheikh Ibn Uthaymin, ici, a dit que Israël, c'était Ishaq. Dans un autre livre, il a dit que Israël, c'est son fils d'Ishaq, c'est-à-dire Yaqub. El Mouhim, la plupart, allez faire des recherches, vous allez trouver que la plupart disent que Israël, c'est Yaqub, alayhi salam. Il a dit, wa Ismaïl, fahum l'arab wa ibna'u am. Et bien sûr, il a dit que les enfants d'Israël, les enfants d'Ismaïl, et les enfants de Ishaq sont des cousins. وقد جاءت أخبار كثيرة عن بني إسرائيل وهي تقسم. Il a dit, on a beaucoup de textes et d'histoires et de contes et qui sont venus des enfants d'Israël. Ils sont venus des enfants d'Israël et ça se divise en trois. Ici, ça me rappelle une chose. Quand Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit que Israël, c'était Ishaq, ici, et dans l'autre livre, il a dit c'était Yaqub, il a dit, de là, ce n'est pas permis, en parlant des Juifs, de dire que ce sont les enfants d'Israël. Non. Il a dit pourquoi? Il a dit c'est pour ça que on se trompe quand on dit, par exemple, quand il va parler de la ville des Juifs, Tel Aviv, ou je sais pas comment ça s'appelle, la plupart disent Israël. Il a dit ça, c'est pas permis. Ça, c'est pas permis, car Israël, c'est qui? C'est un messager. Yaqub, naam, ou bien c'est Ishaq. Mais on ne dit pas d'une ville que c'est Israël. Et aussi, on ne dit pas israélien, en parlant d'un juif. On ne dit pas israélien. Pourquoi? car le juif ne suit pas Moussa alayhi salam, ne suit pas. En vérité, hein, Moussa alayhi salam est venu avec le tawhid, avec l'adoration d'Allah, mais ceux-là, yani, ce qu'on vous savez, yani, ils n'ont pas suivi Moussa alayhi salam, mais ils ont tué leur messager. Ensuite, il y avait quelque chose d'important ici à dire, en parlant des juifs aussi, je voulais dire. C'est quoi avec la faïda? C'est dommage, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté. D'Israël. Bon, j'arrête une seconde pour essayer de me remémorer, Inch'Allah. Alhamdoulilah. J'ai pas pu me rappeler. Peut-être qu'Inch'Allah Ta'ala, en parlant, peut-être que ça viendra. Bi'idhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Et il a dit que ce qui vient, hein, ce qui vient des enfants d'Israël, hein, ce qui vient des enfants d'Israël, ça se divise en trois par rapport à ce qui nous arrive d'eux. Il a dit l'awwal, ma ja'a fil Qur'an, premièrement, ce qui est cité dans le Coran, deuxièmement, ma ja'a fi sahih sunnah, deuxièmement, ce qui est cité dans les hadiths authentiques. Troisièmement, ma ja'a an ahbarihim wa ulama'ihim. Et troisièmement, ce qui est venu de leur, disons, de leurs savants, de leurs savants. فأما الأول والثاني فلا شك في أنه حق ولا شك في قبوله. Il a dit, quant à la première sorte et la deuxième sorte, il n'y a aucun doute que c'est la vérité, on doit prendre cela. C'est-à-dire, ce qui nous est raconté sur les enfants d'Israël dans le Coran antique. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُ مُبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Al-Baqarah 246. N'as-tu pas été notable parmi les enfants d'Israël? Naam. Lorsqu'après Moïse, il dira un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions le sentier d'Allah. Désigne-nous un roi. Donc, cette histoire-là, elle est venue dans le Coran. Donc, on doit attester sa vérité. Et regardez qu'est-ce qu'ils ont dit. Remarquez, hein? Ils ont dit, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. C'est une preuve contre qui? Contre les takfiris. Qui dit, moi, je fais le djihad sans avoir besoin du gouverneur. Vous comprenez? Moi, je prends un couteau, je prends une hache et je vais faire le djihad. Alors que ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Déjà, ils savaient qu'il fallait désigner quelqu'un sous son chapiteau, sous son drapeau, si je puis dire. Naam. Comme a dit le prophète Hassan dans Sahih al-Bukhari, il a dit imam, il a dit imam, il a dit yuttaqa bihi wa yujahadu ma'ahu, ou quelque chose comme ça. Le hadith est dans le Bukhari. Il a dit que l'imam, c'est-à-dire on fait yuqatalu ma'ahu wa yuttaqa bih. Il a dit l'imam Junna. L'imam, c'est un bouclier. Il a dit yuqatal ma'ahu. On combat avec lui et yani, on se met derrière lui. Donc, il faut un imam. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, quand un compte d'Israël vient dans le Coran ou bien dans la Sunna, il faudrait quoi? L'accepter. C'est premièrement. Et comme dans la Sunna, l'exemple du Sunna, c'est le hadith d'aujourd'hui. Il parle des enfants d'Israël dans un hadith authentique rapporté par Bukhari ou Muslim, donc on doit l'accepter. Quant à, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste la troisième sorte. Ce qui nous arrive d'eux, des Ben Israël, des enfants d'Israël, mais qui se trouve ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais il est rapporté par leurs savants. Celui-là, cette sorte-là, se divise aussi en trois sortes. Cette sorte-là se divise aussi en trois sortes. Première sorte, ma shahida shar'u bi butlanihi. La première sorte, c'est ce qui nous est conté. Deux, mais ça vient de leur savant. Et c'est la première sorte, là où, dans notre religion, ça a été prouvé que c'est faux. Yani, la première sorte, celle qui est incompatible avec notre religion. فهذا باطل. Donc ça, c'est باطل. C'est invalide. يجب رده. On doit le rejeter. وهذا يقع كثيرا فيما ينقل من إسرائيليات في تفسير القرآن. Et ça, on le trouve beaucoup où? On le trouve dans ce qui est rapporté par les enfants d'Israël, dans les livres des tafassir, les livres des exégètes du Coran. C'est plein à l'intérieur de, on rapporte de Ka'b al-Ahbar, on rapporte X, Y, des choses de Ben Israël qui n'est pas vrai. طيب, la deuxième sorte. Ma shahid shar'u bi sidqihi. La deuxième sorte, qui vient des savants, sur les contes de Ben Israël, c'est ce qui est compte sharia dans notre sharia, dans notre islam, dans notre législation, c'est dit que c'est vrai. Non, ça, comment on dit, ça confirme ce qu'ils ont dit. فَهَذَا يُقْبَلْ. Donc ça doit être accepté. لَا لِأَنَّهُ مِنْ أَخْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَكِنْ لِأَنَّ الشَّرْعَ شَهِدَ بِسِدْقِهِ وَأَنَّهُ حَقٌ. On l'accepte pourquoi? C'est pas parce que ça vient des enfants d'Israël, mais on l'accepte parce que notre religion, Naam, a affirmé. Et l'a confirmé. Car si notre religion l'avait affirmé, on ne l'aurait pas pris. Au Sadith, reste la troisième sorte de ce qui nous arrive des enfants d'Israël. Une histoire nous arrive des enfants d'Israël par le biais de leurs savants et il n'y a rien dans le Coran, dans la Sunna qui confirme cela ou bien infirme cela. Il n'y a rien qui dise que ça c'est vrai ou bien que ça c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Le cheikh dit فَهَذَا يُتَوَقَّفُ فِيهِ. Là, on doit rester neutre. On ne doit pas prendre de position. لَا يُصَدَّقُونَ وَلَا يُكَذَّبُونَ. Ni on va les croire dans ce qu'ils disent, ni on va les démentir, ni on va dire c'est un mensonge. لِأَنَّنَا إِنْ صَدَّقْنَاهُمْ فَقَدْ يَكُونُوا بَاطِلًا فَنَكُونُوا قَدْ صَدَّقْنَاهُمْ بِبَاطِلٍ. Parce que si on va les croire, il est possible que cette chose ne soit pas vrai. Donc on va les croire dans une chose fausse. وَإِنْ كَذَّبْنَاهُمْ فَقَدْ يَكُونُوا حَقًا فَقَدْ كَذَّبْنَاهُمْ بِحَقٍ. Ici maintenant on va les démentir. On va dire ce qu'ils ont dit ce n'est pas vrai. Alors que peut-être c'est vrai. Donc on les aura démentis dans quelque chose qui était vrai. وَلِهَذَا نَتَوَقَّفِ. C'est pour cela que on ne doit pas prendre de position. On doit être neutre. ولكن مع ذلك لا حرج من تحديث به فيما ينفع في ترغيب او في ترغيب او ترهيب. Il a dit, mais malgré cela, même si on doit rester neutre, c'est ça la position, de rester neutre, et ni de croire, ni de démentir, malgré cela, c'est permis de rapporter ce qu'ils ont rapporté. Si c'est quoi? Si c'est dans une exhortation, par exemple, à un bien, ou bien c'est quelque chose qui pousse aussi à refouler, par exemple, un mal. Naam, terrible ou terrible. Il a dit c'est permis, naam, mais à condition de dire que c'est tout juste une histoire et qu'on ne sait pas si c'est pas vrai. Comme ça, on dit. Les gens ne disent pas, ne croient pas que ça c'est une histoire authentique. دونك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ان ثلاثه من بني اسرائيل ابتلاهم الله. دونك دون سو حديث لو بروفيت عليه الصلاه والسلام nous a raconté que trois personnes des enfants d'Israël, des enfants de Yaqub ou bien de Ishaq. Donc ces trois enfants Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver. Plutôt les a éprouvés. Comment il les a éprouvés? Il a éprouvé dans leur corps. Un, il lui a donné ce qu'on a dit tout à l'heure, la maladie de la peau, qui peut être la lèpre, mais c'est pas la lèpre. Le deuxième, il lui a donné la teigne, une maladie du cuir chevelu, comme ça, comme des boutons dans la tête, et il n'y a pas de cheveux aussi. Et la troisième, le troisième, Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, yani par la cécité. Il lui a enlevé ses yeux, enlevé la vue, disons. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu les éprouver une deuxième fois, naam, mais cette fois, il leur a envoyé un ange. Il leur a envoyé un ange sous forme humaine, bien sûr. Et cet ange est allé à la première personne qui était quoi? Qui était atteinte de la maladie de la peau. Et lui a dit, quelle est la chose que tu préfères le plus au monde? Il lui a dit, je préfère une belle couleur et une peau saine. Parce qu'il était malade de la peau. Et je voudrais que de moi, cette maladie, ce défaut qui fait que les gens fuient de moi. Cheikh Rahimahullah dit, لأن أهم شيء عند الإنسان أن يكون معافا من العاهات. Le cheikh dit, parce que la chose la plus importante chez l'être humain, c'est quoi? C'est d'être préservé des maladies et des défauts. ولا سيما العاهات المكروه عند الناس. Il a dit surtout d'être préservé des maladies et des défauts qui sont يعني, détestés par les gens et qui font fuir les gens. Car il est possible qu'on soit malade d'une maladie qui ne fait pas fuir les gens. Par exemple, quelqu'un qui a mal à l'estomac, quelqu'un qui a mal dans le dos, ça ne fait pas fuir les gens. Mais quelqu'un qui est malade, une maladie qui est apparente physiquement et qui peut-être donne une mauvaise odeur, ou bien fait couler comme ça du pu, ou bien des choses comme ça, les gens ne voudraient pas beaucoup s'approcher de cette personne. Naam, il a dit. Alors l'ange, qu'est-ce qu'il a fait? L'ange, il lui a essuyé sa peau. Et il a guéri, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala, sur le champ. Et à la minute même, il n'y avait plus la trace de cette maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une peau saine et une couleur, une belle couleur. Ensuite, l'ange lui dit, quelles sont les richesses yani dans la vie? Quelles sont les choses qui te plaisent le plus? Il a dit l'ibil, les chameaux ou bien les vaches. Celui qui a rapporté le hadith a dit, je me rappelle pas ce qu'a dit le prophète, mais ce qu'il a dit, les chameaux ou les vaches. Le cheikh rahimahullah a dit, mais apparemment il a dit les chameaux, alors les chamelles. Pourquoi? Parce qu'un peu plus bas, l'ange va aller chez celui qui a la teigne et le teigneux va lui dire, donne-moi des vaches. Donc pour qu'il n'y ait pas répétition, celui-là a demandé des chameaux et le deuxième les vaches. Alors, il lui a donné une chamelle qui allait mettre bas. Une chamelle, comme on dit, gestante. Car vous savez pas, on ne dit pas comment on dit en français, on ne dit pas en période de grossesse pour les animaux. On dit gestant. Cet animal est gestant, ou là, c'est femelle, donc gestante. Tayyib, il a dit ici. Ensuite, il lui a dit, Barakallahu lakafia, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te bénir cette chamelle. Alors, ensuite, le l'ange, yani, la délicée est partie vers celui qui avait la teigne. Il lui a dit, quelles sont les choses les plus, disons, que tu as le plus? Il a dit, belle chevelure, et que disparaisse de moi cette maladie qui fait fuir aussi les gens. Alors l'ange l'a essuyé. Il a essuyé, disons, sa chevelure ou bien sa tête. Et, alhamdoulilah, la maladie est partie. Et à la minute même, il a eu, yani, une belle chevelure. Ensuite, il lui a dit, mais il est bien, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il a dit, la vache. Alors il lui a donné une vache gestante. Non, mon période de gestation. Et lui a dit, Barakallahu lakafia. Que puisse Allah subhanahu wa ta'ala te bénir cette vache. Ensuite, il est allé vers l'aveugle. Il lui a dit, Quelles sont les choses que tu aimes le plus? Il a dit, ce que j'aime le plus, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala me rende ma vue. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala me rende vue. Il a dit, il a dit, médite, médite sur la réponse de l'aveugle. Il a dit, il n'a demandé que la vue, c'est tout, pour voir les gens. Quant au premier qui avait la maladie de la peau, ou l'aqra, et celui qui avait la maladie de la chevelure, chacun demandait, espérait, yani, des choses yani, assez importantes. Car, celui qui était malade de la peau a dit, il a dit, je veux une saine et une belle couleur. Deux choses. Et l'autre a dit, le teigneux, il a dit, je veux une belle chevelure. Je ne veux pas seulement yani, des cheveux, mais une belle chevelure. Une belle chevelure. Quant à celui-là, quant à l'aveugle, il paraît qu'il avait un peu, ou une sorte d'ascétisme. C'est pour ça que il s'est suffi à la vue seulement. Il a dit, je voudrais la vue pour voir les gens, c'est tout. Il n'a pas demandé plus. Ensuite, l'ange lui a demandé, et parmi les richesses, qu'est-ce que tu aimes le plus? Il a dit, les moutons. Le cheikh dit, et ça aussi, ça rentre dans son ascétisme. Car il n'a pas demandé ni chameau ni vache. Bel ghanem, plutôt les moutons. Et si on va comparer maintenant entre un mouton, on va comparer entre un mouton et une vache ou une chamelle. On va trouver quoi? On va trouver qu'il y a une grande différence. Une grande différence dans quoi? Dans le prix. Ça, un mouton, vous savez combien qu'il coûte. Et la vache, il y en a peut-être 10 fois plus. Et la chamelle, vraiment, vraiment cher. Vraiment, vraiment cher. Donc, c'est quelqu'un qui était ascète. Naam, Zahid, Zahid. Il aurait pu demander lui aussi yani, des chameaux, là. Mais non, il s'est suffi au mouton, bi'idhnillahi ta'ala. Fabarak Allah subhanahu wa ta'ala lil awwal fi ibili. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a béni au premier en ce qui concerne ses chamelles. Et au deuxième en ce qui concerne ses vaches. Et à l'aveugle en ce qui concerne ses moutons. Wa sara li kulli wahid minhuma wadin mimma u'ti. Et ensuite, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala a béni, puisque l'ange a fait la dua que Allah bénisse et Allah ta'ala a exaucé, donc chacun des trois a maintenant un troupeau. Alors qu'il avait seulement une vache, une chamelle et un mouton. Maintenant, c'est des troupeaux. Troupeaux, naam. Summa inna hadha al-malaka ata al-abras. Ensuite, l'ange est revenu vers le premier, celui qui avait la maladie de la peau. Dans, il est venu sous quelle forme? Sous sa forme, exactement comme il était lui lorsqu'il était malade. Donc l'ange est venu sous la forme du malade, avec une peau, yani, plein de taches blanches. Naam. Yani, question habit, il est venu avec des habits vraiment qui montrent que c'est quelqu'un de pauvre. Et il a dit, Rajulun miskin. Il a dit à celui qui était malade de la peau, il lui a dit, je suis un pauvre homme. Naam. Yani, j'ai des difficultés pour continuer mon voyage. Et je ne compte aujourd'hui que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite sur toi. Ah, mais ensuite, c'est pas sur lui et sur toi. Non, mais ensuite sur toi. Thumma. Fatawassala ilayhi bi dhikri halihi annahu faqir. Donc, yani, il lui a montré que il était pauvre. Ou Anna ibn Sabil, et que c'était quelqu'un de voyageur. Et que il avait des difficultés pour continuer le voyage. Et que seul Allah subhanahu wa ta'ala pouvait l'aider. Et ensuite lui. Et il lui a dit, As'aluka billadhi a'taka al-lawn hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran as'aluka ba'iran ataballagh bihi fi safari. Je te conjure par celui qui t'a donné la belle couleur et la peau saine et tous ces biens-là, je te conjure de me donner seulement, il y en a une brebis. Ah, pas une brebis, il a dit ici, il y en a, disons, un petit chameau. Là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, al-huquq kathira. J'ai beaucoup de charges, j'ai beaucoup de charges et si je puis dire beaucoup de dettes. Et il n'a pas voulu lui donner. Malgré qu'il avait quoi? Un troupeau de chameaux. Il n'a rien voulu lui en donner. Il a dit, j'ai beaucoup de problèmes avec les. J'ai des dettes, etc. Là. Et bien sûr, il a menti. Et malgré cela, il a dit que il ne lui a rien donné. Alors l'ange lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Subhanallah, c'est comme si je te connaissais. Est-ce que ce n'était pas toi qui étais une fois malade de la maladie de la peau et que les gens fuyaient de toi? Et n'est-ce pas toi qui étais pauvre et Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi et il t'a donné ces biens-là, il t'a donné une belle couleur et une peau saine. Mais il a répondu, oh que non, j'ai hérité cela génération après génération de mes ancêtres. Ce sont mes ancêtres, mon arrière-arrière, l'autre à l'autre à l'autre. Ensuite, ça m'est arrivé par héritage. Alors l'ange lui a dit, in kunta kadiban, fasayyarak Allah illa ma kunta alayh. Si tu mens, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te rendre, yani, à ta forme naturelle. Non. À ta forme, disons, initiale. Comme tu étais auparavant. Comme, yani, lorsqu'il est venu lui rendre visite la première fois. C'est-à-dire, comment qu'il a dit ici dans le livre, puisse Allah subhanahu wa ta'ala, comment qu'il lui a dit? Voir dans le hadith comment qu'il a dit. Oui, j'ai pas trouvé. Al-Muhim, vous avez compris. Al-Muhim, vous avez compris. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala te rendre yani, la maladie que tu avais dans ta peau. Ensuite, il est allé vers Naam. Vers le ténueux. Et lui a raconté la même histoire, comme quoi il était voyageur, qu'il avait besoin d'eux, et il n'a rien voulu lui donner. Il lui a dit, c'est comme si je te connaissais. Tu n'étais pas autrefois, yani, atteint de la teigne, et tu étais pauvre, et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a enrichi, etc. Il a dit, non. J'ai hérité tout cela de mes ancêtres. Génération après génération. Ensuite, il est allé vers l'aveugle et il lui a raconté la même histoire. Alors l'aveugle lui a dit, Qad kuntu a'ma. Certes, c'est vrai, j'étais aveugle. Farad Allahu liya basari. Et Allah subhanahu wa ta'ala m'a rendu ma vue. Le shir dit, il a reconnu la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a reconnu l'aveugle. A reconnu la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lui a dit, Fakhudh ma shi'ta wa da' ma shi'ta. Prends de ce troupeau ce que tu veux et laisse ce que tu veux. Fawallahi ma ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu li 'azza wa jalla. Wallahi jamais aujourd'hui, yani je t'en voudrais pour une chose que tu prendras, yani, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit rahimullah, fondor il le choukr ou l'i'tiraf bin ni'ma. Regarde comment cette personne remercie Allah subhanahu wa ta'ala et comment que cette personne a reconnu naam, le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il a voulu tout donner à l'ange, bien qu'il ne savait pas que c'était un ange, l'ange lui a répondu, Amsik malaka, Amsik malaka, garde, naam, garde, yani tes moutons chez toi, fa innama btulitum, vous avez été éprouvés. Faqad radiyallahu anka, Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé, wa sakhita ala sahibek, et il s'est irrité contre tes deux compagnons. وهذا يدل على أن القصة كانت مشهورة بين الناس. Le cheikh dit cette histoire, autrefois parmi les enfants d'Israël, était connue parmi les gens. C'est pour ça qu'il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala t'a agréé et il est irrité en colère contre tes compagnons. Non, tes compagnons, tes deux compagnons. Pourquoi? Parce que cette histoire était connue. Non, tout le monde sait que cette histoire a eu lieu. طيب فأمسك ماله وبقي قد أنعم الله عليه بالبصر donc il a gardé ses troupeaux son troupeau et il a gardé aussi sa vue après maintenant il a recouvré sa vue donc il l'a gardé Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas enlevé la vue ni son troupeau quant aux deux autres فإن الظاهر أن الله ردهما إلى ما كان عليه من الفقر والعهولة Apparemment, Allah subhanahu wa ta'ala leur a rendu, yani, leur forme initiale. Naam. Il les a rendus comme ils étaient. C'est-à-dire, il a rendu le premier, il lui a rendu la maladie de la peau, et le deuxième, il lui a rendu la maladie du cuir chevelu. Le cheikh dit, wa fi hada dalil, ala anna shukra ni'matillahi ala al-'abd. من أسباب بقاء النعم وزيادتها. Le cheikh rahimahullah dit, et dans cela, on prend quoi? On prend comme intérêt que c'est une preuve que celui qui remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour sa ni'ma, que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prend pas ce bienfait. Et on l'a vu quand? On l'a vu dans le cours passé, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Que à chaque fois qu'une personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un bienfait, et que la personne reconnaît cette bienfait, reconnaît ce bienfait, et remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prend ce bienfait. Regardez le verset. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnu, connaissant certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Donc, quand Allah Ta'ala donne un bienfait à une personne, il y a seulement deux sortes de personnes. Ou bien la personne reconnaît le bienfait et remercie, ou bien elle le nie, l'âme, et ne le remercie pas. Si elle remercie, Allah a promis que non seulement il lui prend pas ce bienfait, mais encore il lui en donne davantage. Et si elle renie ou ne remercie pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui prend cette ni'ma et la donne à une autre personne qui en a besoin, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, regardez ce verset. Chauffe. Une seconde, j'ai pas le verset, mais je vais vous le chercher, inshallah, une seconde. Je viens de m'en souvenir maintenant, très important, qui a rapport avec ce que je viens de dire maintenant. Une seconde. Une seconde. ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة النعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا شوف ce verset là il ne m'a pas donné dommage une seconde طيب je vais écrire autre chose حتى يغيروا ما بأنفسهم Inch'Allah, cette fois il va donner. Inch'Allah, ya Rabbi, sahel. Je crois que ça ne marche pas, subhanallah. Confirmez-moi, est-ce que je suis connecté avec vous? Est-ce que je suis connecté? Alhamdulillah. C'est très important le verset qui va venir, subhanallah. Ça veut pas venir. Malish. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. Taïeb, je vais essayer une autre chose. نعم الله أعلم je me rappelle pas où se trouve le verset. Je sais que Allah Ta'ala dit dans le Coran ذلك بأن الله لم يكن مغيرا ما تنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Très important. Une seconde, une seconde. Je viens de trouver la faute. Une seconde. C'était pas là qu'il fallait écrire. Reste une seconde. C'est moi qui me suis trompé. Une seconde. Mourir, bien foussé. Voilà, j'ai trouvé, alhamdoulilah. Une seconde, c'est moi qui me suis trompé. Non, c'est ça, là, barakallahu fik, vous Zakaria. Regarde, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gifié un peuple ou quelqu'un avant que celui-ci ne change lui-même. Allah entend tout et sait tout. Donc vous avez compris, vous avez remarqué. Allah Ta'ala, quand il donne un bienfait à quelqu'un, qu'est-ce qu'il a dit? En effet, Allah ne modifie pas. Ne modifie pas dans le sens, ne prends pas le bienfait qu'il t'a donné. Il le laisse chez toi. À condition quoi? Avant que celui-ci ne change lui-même. Condition que toi, tu ne changes pas. Car Allah Ta'ala a vu qu'est-ce qu'il avait dans ton cœur et a vu que tu méritais ce bienfait, il te l'a donné. Peut-être que même tu demandais à Allah de te le donner, etc. Maintenant qu'il te l'a demandé, Allah Ta'ala va voir dans ton cœur. Est-ce que tu remercies? Est-ce que tu es content de ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu le remercies? Ou bien, est-ce que tu t'en fous et tu l'oublies, etc. Dans ce cas, il va te le reprendre. Il va te reprendre, naam. Car, yani, envers le bien fait, on a le devoir. Le premier, de faire des doigts pour qu'il nous le donne. Et le deuxième, de faire des doigts pour que il le raffermissent et ne le prennent pas. Très important. Il y a deux doigts envers quoi? Envers un bienfait. D'abord, je fais les doigts pour que Allah Ta'ala me donne la chose. Et quand il me la donne, je fais encore des doigts, ne prennent pas. Vous avez compris? Donc, je ne dois pas changer. Je change ce qu'il y a dans mon cœur, il me le reprend. Donc, je dois tout le temps être de ceux qui remercient Allah Subhanahu wa Ta'ala. C'est pour ça que vous trouvez Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne des bienfaits à quelqu'un, ou bien à un peuple, ou là, ensuite, juste un peu, une semaine, 15 jours, 1 heure, il le reprend. C'est on dit, subhanallah, qu'est-ce qui s'est passé? Naam, ce qui s'est passé, tu as changé. Tu as changé. Tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Donc, là, je vais, Inch'Allah, reviens. Vous inquiétant, il dit que ce s'applique. Est-ce que tu l'envoies? Ce verset, c'est dans le contexte, disait. Est-ce que tu peux ramener le verset en français, Inch'Allah? الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغد من كل مكان فكفرت بين عملها فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 112 النحل. En effet, Non, celui-là. C'est pas celui-là. Ça, c'est le centre. On cherche le centre. 112. Regarde. Et là, la pro-parabole, une. Prenez d'une ville. Elle est en la ville. Mashallah, tranquille. Sans risque, lui venait de partout et en abondance. Puis ingrate au bienfait d'Allah. Alors, c'est quoi le châtiment? Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Subhanallah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ici en fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été ingrats envers les bienfaits, c'est tout. Il a dit, regardez, puis elle se montra ingrate. Elle se montra la ville. Et la ville ici, c'est pas les murs et les bâtiments, c'est les gens de la ville. Les gens de la ville. Et puis les gens de la ville se montrèrent ingrats au bienfait d'Allah. Alors Allah Ta'ala leur fit goûter la violence de la faim. Car c'est pas la ville qui a faim, c'est les gens. Et la peur comme punition de ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Étaient ingrats. Allah Ta'ala, et tu es ingrat. Attention au châtiment. Tout à l'heure, ce que je vous avais dit que j'avais oublié. Tout à l'heure, je voulais dire une chose et je l'avais oublié. En fait, c'est lorsque je parlais des fils d'Israël. Je voulais vous dire que beaucoup de gens croient qu'en disant les fils d'Israël, Benou Israël, que ce sont les juifs seulement. Alors qu'en fait, ce sont les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Car les chrétiens s'affilient à qui? S'affilient à Isa. À Jésus, ça. Et Jésus, hein, c'est de la descendance de qui? De la descendance de Ishaq. Donc de Yaqub, de Daoud, de et Ibrahim et sa descendance. Non. J'ai dit Ibrahim. De Ishaq et sa descendance jusqu'à ce qu'arrive Moussa, ensuite Isa. Non. C'est la même descendance. Donc, quand on dit en islam, on dit les enfants d'Israël ou bien les fils d'Israël, on veut dire par là les juifs et les chrétiens. C'est ce que je voulais dire par rapport à ce que j'avais oublié. Inch'Allah ta'ala. On continue, bidnillah. Donc, on s'était arrêté dans le fait de quoi? Que la personne devait remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour la ni'ma qu'il lui donnait. La personne doit faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la ni'ma. Et ensuite, après la lui avoir donné la ni'ma, elle doit faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui prenne pas. Ce qu'on peut prendre aussi comme intérêt de ce cours, bi'idhnillahi ta'ala, minha, ithbatu al-mala'ika. Minha, ithbatu al-mala'ika. Voyez, je disais. Ce qu'on peut prendre ici, c'est la première faïda, inshallah ta'ala, l'existence des anges. C'est que on doit attester, tout musulman doit attester que il y a des anges qui ont été créés, qui existent, yani, jusqu'à de nos jours, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, et qui resteront jusqu'au jour de, yani, la résurrection, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, il dit, le monde des anges, ça rentre dans le monde de l'inconnu et de l'invisible. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, min nur. Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de lumière. Vous connaissez le hadith authentique? Allah ta'ala a créé les anges de lumière. Et, al-jan, qu'on appelle al-jinn. Il a créé de quoi? Min marijil min nar. De quelque chose qui a rapport avec quoi? Avec le feu. Et il a dit qu'il a créé l'être humain de ce qu'il vous a cité dans le Coran. Non. Il a dit, wa ja'alalhum quwwatan fi tanfidhi amrillah. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux anges une force dans le fait de respecter les princes, les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala et yani, de se soumettre à ses ordres, à ses ordres. Wa ja'ala lahum iradatan fi ta'ati Allah. Il leur a donné aussi une volonté dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Il a dit que les anges jamais ne désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt ils font ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de faire. ومنها deuxième intérêt أن الملائكة قد يكونون على صورة بني آدم فإن الملك أتى لهؤلاء الثلاثة دي بصورة إنسان. Les anges peuvent prendre une forme humaine. Les anges peuvent prendre une forme humaine. La preuve, ils sont venus voir les trois personnes qui ont été éprouvées. Ils sont venus les voir, yani l'ange est venu les voir sous forme humaine. Sous forme humaine. Naam. Ou minha. D'ailleurs, vous rappelez au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ange Jibril, alayhi salam, quand il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique très connu, il dit en ce sens que yani, il avait les cheveux très noirs et les habits très blancs et qu'il n'y avait aucune trace de voyageur sur lui. C'était qui? C'est quand il est parti que le prophète m'a dit, vous avez reconnu c'est qui? Ils ont dit non. Il a dit c'est Jibril. Il est venu vous apprendre votre religion. Donc Jibril, comment qu'il est venu? Sous forme humaine. Sous forme humaine. Et choisissez une belle personne pour venir sous sa forme. Comme le shaitan vient toujours sous la forme de la personne la plus vile et la plus moche. Qu'est-ce qu'il y a aussi comme intérêt? Annahum, ay al malaika, yatakayyafuna bi surat shakhs muayyin. Naam. Ils ont aussi la possibilité de venir sous une forme particulière de telle et telle personne. Non, venir sous la forme de quelqu'un qui a la maladie de la teigne, qui a la maladie de la peau, quelqu'un qui paraît très pauvre, quelqu'un, etc. Non, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné yani, même la possibilité de venir sous une forme particulière. Et bien sûr, vous savez, ils ne viennent ou ne descendent sur terre ou ne prennent de forme humaine que après quoi? Après l'acquiescement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après que Allah subhanahu wa ta'ala accepte. C'est pas eux qui choisissent, ils font ce qu'ils veulent. Wa minha annahu yajuzu al-ikhtibar lil-insan fi an yati ash-shakhs ala hay'atin mu'ayyanatin liyakhtabira. Quatrième intérêt, c'est permis donc en islam de tester quelqu'un. Bi-idhnillahi ta'ala. La permission de tester une personne. C'est permis qu'une personne aille à une autre personne avec l'intention de la tester. Il a dit ici, فَإِنَّ هَدَ الْمَلَكِ par ici cet ange, جَاءَ عَلَى صُورَةِ insan. Il est venu sous la forme d'un être humain محتاج, démuni, مُصَبْ بِعَهَا, atteint d'une maladie. Pourquoi il est venu sous cette forme? Quand il est venu de demander de l'aide. Spécialement pour faire éponger les cœurs des gens. Si quelqu'un vient yani, sous la forme d'un richard et avec la belle voiture, etc., celui-là, personne yani, ne voudra l'aider s'il demande de l'aide. Mais s'il demande déchiré et malade, etc., bien sûr, ça va nous faire de la peine quand on va le voir ainsi. Et s'il demande de l'aide, très vite, on le lui donne. On la lui donne. Comparé à quelqu'un qui vient sous une forme yani, qui a l'air d'un riche. Naam. مع أن الملك فيما يبدو العلم عند الله لا يوصف في الأصل بالعهد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دي alors que l'ange il a dit والله أعلم comme ça il dit alors que l'ange والله أعلم ne peut jamais être atteint d'une maladie. Comme ça dit الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. Regardez comment qu'il dit والله أعلم. Si c'était nous on dit c'est sûr que l'ange jamais ne peut tomber malade. Le الشيخ ابن عثيمين nous savons même en niant une chose, il a peur de se tromper. Non. Qui t'a dit toi? Tu sais, tu connais l'invisible pour savoir que l'ange malade. Tu dis Allahu alam. Je n'ai jamais lu ça dans un livre ou dans un hadith, mais quand même, je ne peux pas nier et dire que ne sont pas malades. Je dis seulement Allahu alam. Non. ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم يأتون على هذه الصورة من أجل اختبار. بلديم الله سبحانه وتعالى les a fait venir sous cette forme juste pour tester une personne. Donc c'est permis en islam de changer de forme ici pour tester. Tester à condition que ça soit quelque chose de bien. Non, ce n'est pas pour espionner. Ce n'est pas pour espionner. Sauf bien sûr si on espionne pour le but, par exemple, pour l'intérêt général. Par exemple, l'intérêt du pays. Vous savez qu'il n'y a pas un pays dans le monde qui n'a pas d'espion. Vous savez ça. Qu'il envoie ses espions dans d'autres pays pour savoir ce qui se passe, ce qu'ils préparent, qu'est-ce qu'ils ont comme armes, etc. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé, et le hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari, a envoyé deux fois, naam, des espions. Naam. Il a même une fois envoyé des gens du livre, des kuffars, subhanallah al-alim. Il les a envoyés comme espions. Quelqu'un va dire les gens du livre, c'est des kuffars. Non, qu'est-ce que je fais avec le kafir? Le kafir, des fois, c'est lui qui peut ramener plus d'informations que le musulman. Le musulman, il ne peut pas s'infiltrer parmi les kuffars. Mais le kafir, il est avec eux, dans les bars, dans les discours, et il te ramène des informations. Si quelqu'un va dire, mais le kafir, qu'on lui fait confiance, je lui dis, Il y a des kuffars qui sont confiants. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, si jamais je dois aller chez un médecin et que je n'en trouve que deux qui ont la spécialité de ma maladie, c'est-à-dire qui sont dans le domaine de ma maladie. Il a dit, l'un des deux est musulman. Et le deuxième, c'est un kafir. Et le kafir, c'est sa spécialité. Alors que le musulman, c'est seulement un généraliste. Il a dit, je choisis le kafir. Et pourtant, c'est un kafir. Mais il a dit le shir, s'il est connu, c'est quelqu'un de confiant. Donc, dans les kuffars, il y a des gens de confiance. Allah Ta'ala dit, وَمِنْ أَهْلِ كِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Il a dit, il y a parmi les kuffars qui, si tu leur donnes des quintaux, ils te le rendent. Et il y en a d'autres. Tu lui donnes un dinar, il ne te le donne pas. L'essentiel, le deuxième verset, il a dit, il y a parmi les gens du livre, tu lui donnes des quintaux en dépôt, il te le rend. Donc, c'est une preuve qu'un kafir peut être confiant. Et la grande preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu faire la hijra, il l'a faite en cachette, ça, avec Abu Bakr, radiyallahu ta'ala anhu. Et qui leur a montré le chemin? Ils ont payé un kafir, un mushrik, qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit. Abdullah ibn Urayqit, un mushrik, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a donné de l'argent et lui a fait confiance pour lui montrer quelque chose qui a rapport avec le din, car il allait faire la hijra, subhanallah al-azim. Donc, pour ceux qui disent que les kuffars, etc., qu'il n'y a jamais de comportement avec eux, ou là, jamais de relation, on ne doit pas leur parler, ou là, tout cela, bien sûr, ce sont des juhal qui ne connaissent rien dans leur religion et qui ne font pas de différence entre acheter d'un mécréant et faire l'aveu. L'âme, acheter d'un mécréant. Certains croient que si tu vas chez un mécréant, tu as de lui, chez le boulanger, ça veut dire que tu as fait l'aveu. Ça veut dire que tu l'as pris pour un allié et peut-être que par conséquent tu es devenu kafir. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Comment l'islam te permet de te marier avec une chrétienne? Une chrétienne. C'est permis aux musulmans de se marier avec elle. Alors que la chrétienne dit que mon Dieu, c'est Jésus. Subhanallah al-Azim. Celle-là, c'est un ennemi d'Allah. Ça. Et tu te maries avec elle, et tu l'aimes, et tu as des enfants d'elle. Subhanallah al-Azim. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on disait? Je parlais de quoi? Cette chauffe, si je me rappelle. Naam. Que c'était permis en islam de tester à condition que ça rentre dans quoi? Ça rentre dans, il y en a des intérêts L'âme, ça ne se contredit pas avec la religion. C'est pour cela que quand l'ange ici est venu, sous une autre forme pour tester les trois. C'est permis par exemple à quelqu'un, je donne un exemple, qui est ministre par exemple, ou même président de la République, ou bien dans ta société, tu as une société. C'est permis que tu viennes avec d'autres habits, pour qu'on ne te connaisse pas. C'est-à-dire que tu changes de forme. Et avec une canne, comme quoi tu es malade, un vieux, tu parais vieux, et tu viens demander comment ça se passe ici dans la société, est-ce que ça marche pas, etc. Juste pour que tu vois, Yanni, si les gens travaillent ou pas. Car quand tu es présent, tout le monde travaille. Mais quand tu es absent, qu'est-ce qui se passe? Allahu alam. Donc c'est pour tester. Tu fais comme l'ange et tu viens, est-ce que je peux trouver un travail avec vous, est-ce que ça marche ici, ceci, cela, et tu vois, yani, ce qu'ils font quand tu es absent, bi'idnillahi ta'ala. Ce qui prouve que c'est permis aussi de tester, à part cette histoire de l'ange, c'est l'histoire de Suleyman, alayhi salam, notre prophète, Suleyman, alayhi salam, qu'ils appellent eux Salomon, comme ça ils disent. Naam. Lorsque deux femmes sont venues et se sont disputées un enfant. Elles avaient deux enfants et le loup est venu, il a pris un des deux enfants. Chacune des deux a commencé à dire, celui qui est resté, c'est le mien. Elles se sont disputées, elles ont dit, viens, on va chez Daoud, le père de Suleyman, il va juger entre nous. Daoud a jugé que c'était l'enfant de la plus âgée. Alors la moins âgée a dit, je ne suis pas d'accord avec ce jugement. Et viens, on va voir Suleyman. Elles sont allées voir Suleyman, le fils de Daoud. Elle lui a raconté, il a jugé que l'enfant, il n'a pas jugé, il a dit, ramenez-moi un sabre, ou alors une épée ou un couteau, pour que je le coupe en deux, et je vous donne, pour chacun, chacune, je donne la moitié. Ici, la petite, la moins âgée, a dit, Ya Suleyman, je te conjure par Allah de ne pas le couper en deux, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de la plus âgée. Alors ici il a dit, justement, alors c'est ton enfant. Et il le lui a donné. Ici Suleyman, qu'est-ce qu'il a fait, alayhi salam? Quand il a dit, ramenez-moi le couteau, c'est juste pour tester. C'est pas vrai. Donc, pour voir laquelle des deux ne va pas accepter que je le coupe en deux. Qui ne va pas accepter à elle sa mère. Car l'autre, elle s'en fout, elle dit, laisse-le, qu'il meure, quand il meurt l'autre. Naam. Mais la moins âgée, naam, la jeune, a dit, ne le coupe pas, il a su donc que c'était son enfant. Donc ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a dit, ramenez-moi le couteau, c'était juste pour tester. Pour tester. Naam. Qu'est-ce qu'on peut prendre aussi parmi les intérêts bidna ta'ala. On peut prendre parmi les intérêts le malak masah al aqra wal abras wal a'ma masahatan wahida fa azala Allah anhum bi hadhihi al masahibahum. Allah subhanahu wa ta'ala, n'am, regardez ici, a fait de sorte que l'ange a essuyé le premier, le deuxième et le troisième, et qu'est-ce qui s'est passé? Les trois ont guéri. Si Allah ta'ala avaient voulu, ils auraient guéri sans que l'ange yani, n'essuie leur peau, ni la chevelure, ni les yeux de l'aveugle. Mais Allah Ta'ala veut te dire que il faut toujours prendre des causes. Naam. Donc ici, l'aveugle n'a pas recouvré la vue sans que l'ange lui ait quoi essuyé les yeux, ni l'autre les cheveux sans que l'ange lui ait yani, essuyé la tête, et comme ça. Donc il faut prendre des causes. Alors que Allah Ta'ala, s'il avait voulu, il aurait dit soit, et il serait guéri à l'instant même. Donc quand quelqu'un est malade, il faut que dans son cœur, il mette que c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Je fais des doigts et ce n'est pas interdit d'aller voir le médecin. Pire encore, si je ne vais pas voir le médecin et que je sais par expérience que cette maladie se guérit, naam, j'aurai même des péchés. Naam, car le prophète a dit, tadawu, il a dit, soignez-vous. Il a donné un ordre. Il a donné un ordre qu'il faut se soigner. Naam. Bien sûr, la personne se parle les doigts. Et quand elle va se soigner, elle met dans son cœur que jamais le médicament ne guérit. Moi, je me soigne et Allah me guérit. Le médicament, c'est juste une cause. C'est juste une cause. Certains savants, certains ont dit que l'ordre ici du prophète, alayhissalam, quand il a dit soignez-vous, n'atteint pas l'obligatoire. Mais au maximum, c'est recommandé. Certains ont dit comme ça. Ils ont dit c'est tout juste recommandé. Si quelqu'un ne veut pas soigner, que ce n'est pas interdit. Mais vous connaissez que la règle, que les ordres du prophète, alayhissalam, sont de l'ordre de l'obligatoire. Quand quelqu'un veut dire qu'un ordre du prophète alayhissalam n'est pas obligatoire, il doit donner un dalil que c'est tout juste recommandé ou que c'est tout juste permis. Comme ça, on répliquait les autres. Al-Muhim. Mina. Parmi les intérêts qu'il y a aussi dans ce cours, أن الله قد يبارك للإنسان بالمال حتى ينتج منه الشيء الكثير. نعم. Sixièmement, la baraka et le bénissement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les biens de certaines personnes. Les trois, chacun d'eux n'avait qu'une chamelle, sallallahu alayhi wa sallam, et une vache et une brebis. Et quelques temps après, les trois avaient des cheptels, des troupeaux de chamelles, de chameaux et de moutons et de vaches. Alors que d'autres personnes, il peut avoir une vache par exemple et un taureau, un mouton et une brebis, un chameau et une chamelle, et ça ne donne pas beaucoup. Après 2-3 ans, il n'y a rien. Il y a seulement, c'était 2, c'est devenu 4, c'est devenu 6, c'est tout. Mais certains, Allah subhanahu wa ta'ala, leur donne quoi? La baraka. Leur donne le bénissement dans leurs biens, dans leurs enfants, dans leurs animaux. Et comme ça. Naam. Et qu'est-ce qu'on prend aussi comme intérêt si ce n'est pas terminé? Sabi'an. Qu'est-ce qu'il y a? Wa minha tafawut bani adam fi shukri ni'matillah wa naf'i ibadillah. Septièmement, que la diversité. Les gens sont différents par rapport aux bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont différents. Regardez ici, le premier et le deuxième n'ont pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. L'aveugle par contre, a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier et le deuxième n'ont pas ni remercié Allah subhanahu wa ta'ala, et le troisième a remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que vous sachiez que les gens ne sont pas les mêmes. Deux personnes, deux frères, de même père et mère, deux frères. Allah Ta'ala leur donne la même ni'ma. Le premier, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala, et le deuxième ne remercie pas et il la renie. Et peut-être même qu'elle vienne de moi et pas d'Allah. C'est moi qui ai couru tout le temps, c'est moi qui ai travaillé, c'est moi qui ai sué, c'est moi qui ai investi mon argent, c'est moi qui avait des connaissances, c'est moi ceci, cela. C'est à cause de ça que j'ai eu cette ni'ma. Naam. Et il ne va pas tarder, Allah subhanahu wa ta'ala va la lui reprendre. Et le premier, il dit à Allah, tout ce qui m'arrive, naam, de ni'ma, dans chaque jour, ça vient de toi, toi seul, ya Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait la baraka et la lui multiplie. Naam. Qu'est-ce qu'il y a aussi dans ses intérêts, comme intérêt dans ce hadith? Naam. Minha, itbatu ar-rida wa as-sukht lillahi subhanahu wa ta'ala. Minha, les deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément et le sukht. Et ça s'appelle aussi le sakhat. C'est quoi le sukht ou le sakhat? D'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des gens que Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Ils ont l'agrément d'Allah en certaines choses, bien sûr, c'est pas par piston. Et d'autres, ils encourent la colère d'Allah. Au lieu d'avoir l'agrément, ils ont le contraire. Ils ont le sort, ou bien le sakhat. A'udhu billah. Naam. On prend ça d'où? Naam. Des deux premiers. Les deux premiers ont eu quoi? Ont eu le sort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala s'est mis en colère contre eux, ils n'ont pas remercié la ni'ma d'Allah. L'aveugle a reçu l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'ange lui a dit, Allah ta'ala t'a agréé. Et il s'est irrité contre les deux autres, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, parmi aussi la preuve qu'il y a l'agrément d'Allah et le sort d'Allah, et que ce sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez par exemple dans sourate Al-Ma'ida, verset numéro 80. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Tara kathiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. La bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allahu alayhim wa fil adabihum khalidun. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, c'est des musulmans, s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah. C'est dans le supplice qu'ils éterniseront. Le témoin, ils ont couru le courroux d'Allah. Naam. Sakhit Allahu alayhim. Sort. A'udhu billah. Naam. Et on prend aussi un hadith, si vous voulez, où yani, ça prouve le sort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, j'étais en train de lire. Naam, j'étais en train de lire. Al-Muhim. Vous voyez, c'est écrit en français. Naam, alhamdoulilah. Donc, Yom al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va dire aux gens, est-ce que vous êtes contents? Ils vont dire, pourquoi on n'est pas content, ya Allah? Alors que tu nous as donné ce que tu n'as pas donné à aucune des créatures. Allah dira alors, je vais vous donner quelque chose de mieux. Mieux que cela. Ils vont dire, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que cela? Allah va dire, je vous comblerai de mon agrément. Et je ne serai jamais en colère contre vous. Ça, c'est le hadith de quoi? Le hadith qui montre que Allah Ta'ala agrée des gens. Naam. Il a dit, je vous comblerai de mon agrément. C'est pour prouver que Allah Subhanahu wa Ta'ala yani, agrée et yani, yaskhat. Et se met yani, en colère et devient irrité de certains gens. Naam. Tayyib. Est-ce qu'on peut prendre aussi de ce hadith? On peut prendre aussi de ce hadith. أن في بني إسرائيل من العجب والآيات ما جعل النبي صلى جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا من أخبارهم حتى نتعظ. نعم. On prend aussi de ce hadith, 9e intérêt, qu'il y a des leçons à tirer des contes extraordinaires des enfants d'Israël. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a raconté, par exemple, ici, le prophète a raconté l'histoire de ces trois personnes qui ont été éprouvées. Naam, c'est une chose extraordinaire. Naam, comment il y a des anges qui viennent comme ça sous forme humaine, etc. Al-Muhim, il a raconté ça, ce n'est pas pour raconter, mais pour tirer des leçons. Naam, l'islam, certes, contient des contes et des histoires des peuples passés, des messagers, des anges, ceci, cela. Mais ce n'est pas seulement yani, pour raconter. Mais c'est surtout pour yani, exhortation, et pour rappel. Naam. Ce n'est pas comme quelqu'un qui n'a pas envie de dormir la nuit, plutôt qu'il ne peut pas dormir. Il va dire, je vais bouquiner. Et il prend un livre, un roman policier, il va lire jusqu'à ce qu'il dorme. En islam, non. Quand tu lis quelque chose, Naam, c'est pour que yani, tu apprennes toujours quelque chose de nouveau pour te corriger ou alors pour faire quelque chose de nouveau que tu ne savais pas pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même dans les histoires des anges, les histoires des enfants d'Israël, il y a toujours quelque chose, naam, comme ici par exemple. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui de ce hadith? On a appris au moins une chose, que attention, que Allah ta'ala te donne un bienfait et que tu ne le remercies pas, car il te le reprendra. Il te le reprendra, et tu reviendras à la première position, la position, la forme initiale. Naam, subhanallah al-adhim. Tayyib, qu'est-ce qu'on peut prendre aussi comme leçon, ou là, comme intérêt de cette histoire? Regardez. lorsque les anges sont venus, ou plutôt lorsque l'ange est venu aux trois personnes. La deuxième fois, il est venu sous forme de quoi? Sous forme, yani, de quelqu'un d'atteint de maladie, ou bien maladie de la peau, ou bien des cheveux, ou bien aveugle. Lorsqu'il a demandé, yani aux autres, aux trois, de l'aider, lui donner une brebis, ou bien un chameau, ou bien une vache, les trois n'ont pas accepté. Ils ont dit que on a hérité ça et on a des dettes, etc., etc. Qu'a dit l'ange? Il a dit, si tu mens, à chacun d'eux, il a dit, si tu mens, alors que Allah subhanahu wa ta'ala te rende comme tu étais auparavant. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith donc? On prend quoi? La condition. Que des fois, quand je doute d'une personne, et que cette personne, par exemple, je me dis, j'ai des doutes, peut-être c'est elle qui a volé, c'est pas elle qui a volé. C'est elle qui a fait cette chose, c'est pas elle. Je doute. Alors qu'est-ce que je fais? Je veux faire des doigts contre elle. C'est permis de faire des doigts contre une personne. Ça, c'est dans le Coran. La yuhibbu Allahu al-jahra bil qawli illa man zulim. Il a dit, illa man zulim. Il a dit, sauf le jahra bil sumin qawli illa man zulim. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que vous disiez mauvaises choses. De mauvaises choses ici, c'est faire des doigts contre les gens. Il a dit, illa man zulim. Il a dit, sauf celui à qui on a fait du tort. Et le prophète Hassan, vous savez que il a fait des doigts contre des personnes. Et Nuh alayhi a demandé à Allah d'exterminer sa nation et comme ça. El Mohim. Maintenant, je doute de la personne. Je dis peut-être que yani, si elle est innocente, comment je vais faire des doigts contre elle? Donc la solution serait quoi? De poser une condition. De dire, ya Allah, si cette personne est elle qui m'a volé, yani, alors faites-lui telle et telle chose. Ya Allah, si c'est elle qui m'a menti, ou qui a menti, alors yani, je demande telle et telle chose contre elle. Ici, on prend ça d'où? On prend de l'ange. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si tu mens, puisse Allah subhanahu wa ta'ala te faire revenir à ta position première. Il a dit, si tu mens, à condition. Donc ici, il a posé une condition. Et le fait de poser une condition, on le prend de ce hadith, on le prend d'où aussi? On le prend du Coran, de la Sunna et des Sahaba. Où est-ce qu'on prend du Coran le fait que c'est permis? Yani quand on ne sait pas de poser une condition. Regardez ce verset. Wal khamisata anna la'nat Allahi alayhi in kana min kadibin. Quand un homme, par exemple, accuse sa femme d'avoir fait l'adultère, ou que l'enfant, c'est pas son enfant. Naam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc j'ai dit qu'en islam, si jamais l'époux accuse son épouse de l'adultère, ou bien dit que c'est pas mon enfant, l'islam dit ils vont chez eux et chacun d'eux va jurer quatre fois. Et la cinquième, l'homme va dire que la malédiction d'Allah tombe sur moi, là, si je suis du nombre des menteurs. Et elle va dire que la colère d'Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteuses. El Mohim, qu'est-ce qui a relation avec le cours ici? Et que la malédiction d'Allah tombe sur moi. Si, à condition, si je suis du nombre des menteurs, que la malédiction tombe sur lui, sur cette personne, si elle est du nombre des menteurs. C'est-à-dire, si elle ne l'est pas, la malédiction ne va pas tomber. Donc, ils ont mis ici quoi? La condition, une condition. Naam. Dans le hadith, qu'est-ce qu'il y a? Où il y a la condition? Quand vous faites salat istikhara, qu'est-ce qu'on dit? Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibti amri aw qala ajili ajili amri wa ajili durhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lam ايه وان كنت ان هذا الامر شر لي في ديني والى اخر الحديث دونك dans la prière de la consultation qu'est-ce qu'on dit Seigneur si tu sais si ya si Si tu sais que cette affaire est pour moi une source de bien, pour ma religion, pour ma vie ici-bas, et pour ma destinée future, ou, alors il a dit, pour mon présent et pour mon futur, destine-la-moi, facilite-moi sa réalisation et bénis-la-moi. Et si tu sais, si, à condition, si tu sais que cette affaire est pour moi une source de mal, pour ma religion, pour ma vie d'ici-bas, pour ma destinée future, où il a dit pour mon présent, pour mon futur, détourne-la de moi et détourne-moi d'elle, et prédestine-moi le bien là où il se trouve, et inspire-moi-en la satisfaction. Donc il y a quoi? Il y a si. Ça veut dire, si c'est un bien, il y a Allah, faites-le rapprocher de moi. Mais si c'est un mal, éloignez-le. Moi, j'ai demandé avec la condition, si. Naam. Chez les sahabas, vous connaissez tous un sahabi qui s'appelle Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu. Il était connu pour avoir quoi? Pour être de ceux que, s'il faisait des doigts, ils étaient exaucés. Subhanallah, il y a des gens comme ça. S'ils font des doigts, ils sont exaucés. Parmi ceux-là, il y avait Sa'd ibn Abi Waqqas. Et ce Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, une fois, Omar al-Khattab l'a envoyé en Irak. Et il lui a donné une partie comme ça, une contrée ou bien un département. Il lui a dit, c'est toi le responsable. Un jour, yani, des gens ont commencé à critiquer Sa'd ibn Abi Waqqas. Et Omar al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu, a entendu. Il a entendu son affaire. Et il a envoyé quelqu'un pour yani, confirmer ou bien infirmer. Infirmé, non? Ou bien peut-être lui-même s'est dépassé. Là, j'ai oublié. El-Mohim, lorsqu'il était présent, non? Et ils ont fait venir la personne qui l'a accusé. Non? Alors, on a demandé à cette personne, qu'est-ce que tu connais de Sa'd ibn Abi Waqqas? Alors, la personne s'est levée et a dit, Sa'd ibn Abi Waqqas vraiment est injuste. Quand il donne, et il ne nous ordonne pas d'aller au djihad, et il ne fait pas bien la salat. Subhanallah l'azim. Alors on a demandé à Sa'd, et toi, qu'as-tu à dire? Écrivez-nous le numéro 1 si vous m'entendez. Et toi Sa'd, qu'as-tu à dire? Tu as entendu ce qu'il a dit celui-là? De quoi il t'accuse? Qu'as-tu à dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien ce qu'il a dit. Allahumma, in kana hada qama riya'an wa sum'atan. فعمي بصره وأطل عمره وعرضه للفتن. Il a dit, Seigneur Dieu, si celui-là, cette personne qui s'est levée maintenant et a dit ce qu'elle a dit, elle s'est levée par ostentation et réputation, alors aveugle-lui les yeux, allonge dans son terme, allonge dans sa vie et éprouve-le par les fitnas. Allahu Akbar. Hadith dans Bukhari. Ya Allah, si celui-là s'est levé par ostentation et réputation, il a bien dit si, condition, Ya Allah, je vais faire des doigts contre lui, des doigts graves, aveugle-lui des yeux, allonge dans son terme et éprouve-le par les fitnas. Mais j'ai bien dit si, non, s'il s'est levé par ostentation et réputation, mais s'il s'est levé, yani, car il est véridique, il croit cela et s'est trompé, non. Mais si c'est levé par ostentation et réputation, Ya Allah, moi je pense, mais vous savez, vous connaissez, vous voyez ce qu'il y a dans les cœurs. Alors, je demande trois choses. Aveugle-lui les yeux, allonge dans son terme, naam, pour qu'il ne meure pas vite. Éprouve-le par les fitnas. Une personne qui était présente ce jour-là, dans cette assise, a dit, j'ai vu cet homme sur lequel Sa'd a fait les doigts. Je l'ai rencontré une fois dans la rue, vieux, à un point où les poils ou alors les cheveux de ses sourcils, lui cachaient, yani les yeux. Yani tellement Allah Ta'ala lui a allongé dans sa vie. Et il a dit, je l'ai vu aveugle, assis comme ça, aveugle. Donc, la deuxième chose que Allah Ta'ala a exaucée. Et la troisième des choses, cette personne a dit, et à chaque fois qu'il sentait que yani, une fille ou là, une femme est passée devant lui, hein, il lui parlait en mauvais. Il l'a provoqué. Il lui disait des choses qui ne sont pas bien. Donc, il a été éprouvé yani, par les fitnas. À cause de quoi? À cause d'une personne qui a fait des doigts contre lui. Comment? Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu. Toi, tu viens l'accuser. Tu dis, il ne fait pas bien la prière et quand il y a le but, hein, il ne partage pas également. Et, subhanallah, j'ai oublié c'était quoi, la troisième. Naam. Et il dit, il ne nous envoie pas au djihad. Il dit, il n'y a pas de djihad. Subhanallah. Regardez donc, c'est permis de faire des doigts contre quelqu'un. Mais regardez les sahabas, comment qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a employé la condition si. La condition si. Naam. Donc voilà, inshallah ta'ala, ce qu'il y a dans le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter ici, bi'idhnillah ta'ala. On va commencer les questions-réponses, inshallah ta'ala, dès que vous êtes prêts, bi'idhnillah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته D'accord, مسلم puisque tu es prête, inshallah ta'ala, commence. مسلم, si tu es prête, commence. تفضل. J'ai dit peut-être peut-être tu appliques le hadith, فهمت? Le hadith qu'on vient de voir, tu t'es déguisé en femme, فهمت? Pour me tester. فهمت? Tu as fait comme l'ange. نعم. تفضل الله
الله بارك الله فيكم شيخ الله والصلاة والسلام على رسول الله اي شيخ il faut que vous m'ouvriez le PV j'ai oublié je vais m'ouvrir le PV pour que je vous envoie la première question inshallah
inshallah c'est comme j'ai dit la fois passée c'est vous qui ouvrez et moi qui clique moi je clique dessus تفضل
بارك الله فيكم شيخ maintenant on commence inshallah la première question question d'une sœur qui concerne le cours inshallah La sœur dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». Cheikh, par rapport au verset, c'est qu'en effet, Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci ne change lui-même. Et Allah entend et sait tout. Donc le verset que vous nous avez cité avant d'aller faire salat. Donc si l'on médite le verset, peut-il être un dalil qui peut prouver la raison du fait que les musulmans soient si faibles de religion et dans la dunya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran.
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous montrez? Je n'ai pas bien compris ce qu'elle veut dire, inshallah ta'ala. Abu Zakaria, si tu as compris, inshallah ta'ala, dis-moi ce qu'elle veut dire, je n'ai pas bien compris. Sinon, passe à la deuxième le temps qu'elle reformule, inshallah ta'ala, yani avec d'autres termes. Ou alors je veux lui dire, est-ce qu'elle veut dire que maintenant nous sommes faibles, etc., la Umma muslima, parce que yani, on a changé, parce que on a modifié et on n'a pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits qu'il nous a donnés. Est-ce qu'elle veut dire cela? Confirme-moi, le temps, inshallah ta'ala, que tu poses une autre question. Tafadhal.
Très muslim, si tu peux poser ta question, inshallah, parce que moi, ma deuxième, elle est longue, donc autant que tu poses une question pendant que je vérifie celle-là, inshallah. Barakallahu fik.
Donc, question d'ordre général, inshallah, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous préserve et vous fasse miséricorde. J'aurais une question à vous poser au sujet du tutorat, inshallah. Une sœur de 16 ans n'a aucun mahram qui vit avec elle. Elle habite en France et ses mahrams habitent au pays d'origine. Elle vit donc seule avec sa mère. Elle voudrait savoir si son père qui vit au pays peut donner la tutelle à quelqu'un de France pour qu'il puisse la marier, Inch'Allah. Car il est en impossibilité de venir. Si oui, peut-il donner la tutelle à qui il veut, sinon à qui? Car il n'y a pas d'imam du bon minhaj là où on habite. Barakallahu fekoum, cher, et les admins. Fadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Une seconde. Il saute. Alhamdoulilah. Dans un cas pareil, le père, inshallah ta'ala, qui est loin, doit donner la tutelle à quelqu'un qui est là-bas, bi'idhnillah ta'ala, pour marier sa fille. Donc il peut lui, par exemple, par téléphone, si on est sûr, yani, que c'est le père qui est en train de, bien sûr, sinon par Skype, par là, pour être sûr que c'est lui, là, il donne la tutelle à quelqu'un, il choisit quelqu'un, yani, c'est pas obligé que ça soit. Un minhaj, un imam dans le bon minhaj, où il a choisi, il y a une personne pieuse, une personne pieuse qui est connue, qu'elle fait ses prières à l'heure, etc. Car le tuteur, c'est pas obligé qu'il soit quelqu'un qui remplisse toutes les conditions. Sinon, aucune de nos filles et de nos sœurs ne pourrait se marier. On va dire, celui-là, son tuteur, il fume. Celui-là, son tuteur, il y a Des fois, il rate des prières. Celui-là, son tuteur, n'a pas de barbe. Et comme ça. Et alors, aucune de nos sœurs, Cheikh Ibn Uthaymeen, ne pourrait se marier. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est, ce sont les deux témoins qui doivent remplir les conditions. Car faire venir deux témoins, c'est facile. Mais faire de sorte que le tuteur remplisse les conditions, ça c'est difficile. Donc, ce qu'il faut dans le tuteur, c'est l'islam, qu'il soit musulman, et qu'il ne soit pas sorti de l'islam. Tant qu'il est musulman, il lui est possible de marier sa fille ou sa soeur ou bi'idnillahi ta'ala. Tfadlal.
Barakallahu fikoum, Cheikh. La sœur a confirmé que c'était bien ce que vous avez dit. Donc, à savoir, le fait que l'on soit faible parce que nous avons changé. Barakallahu fikoum, Cheikh.
Naam, je lui confirme que ça a un rapport bi'idnillahi ta'ala, ce qu'elle dit. Naam, ça a un rapport avec le fait que on soit faible. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Regardez ce verset, mashallah. Allah Ta'ala a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Pourquoi? Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Résultat, il a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par proche. Regardez ici ce qui est très important, quoi? Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Allah Ta'ala regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Qui trouve qu'il y a des choses, masha'Allah. Alors il fait descendre sur nous la quiétude. Et il nous récompense par une victoire, par autre chose. Naam. Mais dans les cœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Donc, il va quoi? Il va nous récompenser par une mauvaise chose. Voilà, par un châtiment. Ou du moins nous prendre le bienfait qu'on a. Naam. C'est pour cela la plupart des musulmans, et astaghfirullah, sont ingrats par rapport au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et seulement les musulmans remercient la ni'ma de l'islam seulement, sans parler de la ni'ma de la santé, la ni'ma des biens, la ni'ma des enfants, la ni'ma de la femme, la ni'ma, sans parler de ça, seulement la ni'ma de l'islam. Vous remarquez que la plupart des musulmans, ou beaucoup d'entre eux, ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala pour la ni'ma de l'islam. C'est pour ça que leur islam, vous trouvez qu'il est très faible. Très faible. Il est musulman, mais vraiment un musulman faible. Même devant le kafir, il est complexe. Il ne vaut rien devant le kafir. Subhanallah l'adim. Pourquoi? La plupart ne remercient pas Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala fortifier la foi en cœur. Tfadl. Vous accueillez, tfadl. Et ton PV est fermé. Tfadl.
Je croyais que quand vous aviez répondu à une question du cours, c'était à au frère de à Moussim de poser, donc je vous l'envoie. Question d'une sœur qui dit: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakum Allah ala al-haq. D'après ce que j'ai compris du hadith, nous devons d'être reconnaissants envers Allah Azza wa Jal pour les bienfaits qu'il nous accorde. Et parmi ceux-là, il y a la guidée, comme vous l'avez dit maintenant, cher. Cependant, j'ai une question qui ne cesse de me perturber. Lorsqu'une personne que l'on connaît est dans l'égarement, le dilemme auquel je suis confronté est: dois-je la fréquenter pour lui faire nasiha et ne pas la repousser, du fait que moi aussi, je n'ai pas toujours été dans cet état, et que c'est uniquement par la grâce d'Allah Azza wa Jal que je le suis, ou dois-je m'écarter de cette personne de peur qu'elle devienne une mauvaise fréquentation pour moi? Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense, vous et vos admins, ainsi que les frères et sœurs. Amin. Barakallahu fikum.
Barakallahu fikum, cette sœur, pour les doigts qu'elle nous fait. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous englober tous et toutes dans le salon par ses doigts. Je dis, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Cette question tente. Et la réponse est très facile. Cette question est importante et sa réponse est très facile même. Je dirais. Je dis comme réponse, cela dépend. Moi, ça veut dire c'est la sœur ici. Cela dépend de moi. Si moi, j'ai une foi forte et j'ai assez de science, de façon à ce que si j'observe là, celle qui est égarée, etc., je ne risque pas d'être influencé. Et que je suis sûr même que, yani, petit à petit, inshallah ta'ala, je vais la guider vers le droit chemin, bi'idhnillah ta'ala. Dans ce cas, ça devient une obligation pour moi de ne pas la lâcher. Car j'ai les moyens, je suis fort en iman, et j'ai de la science, masha'Allah, et je sais qu'elle ne va pas influencer en moi. Et si par contre je suis faible, naam, et que moi en lui parlant, je sais que cette personne est forte de caractère, et qu'elle n'aime pas que je lui parle dans le din, et qu'elle risque même de m'attirer dans la fitna, dans ce cas, personne ne m'oblige d'avoir un lien avec elle. Tout juste salam, salam quand je la rencontre. Pourquoi? Pour préserver mon din. Car ce n'est pas permis de me jeter dans l'enfer pour faire rentrer autrui au paradis. Pas de se tuer pour je vais moi mourir et l'autre il va vivre. Non, ça c'est quand il y a le djihad, d'accord. Mais pas, yani, je vais me brûler et elle va au paradis. Et quelle est la preuve de ce que je dis? La preuve de ce que je dis, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique qui a dit Al muslim. Il a dit en ce sens, mais il est authentique. Il a dit le musulman, naam, qui fréquente les gens et patiente est mieux que le musulman qui ne fréquente pas et ne patiente pas. Il a dit le musulman fort est plus aimé chez Allah que le musulman faible. Et il a dit, et dans les deux, dans le fort et le faible, il y a un bien. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui est fort et peut fréquenter les gens, naam, et patienter pour les faire venir vers le haq, etc., il est mieux que celui qui est faible et qui ne peut pas. Mais celui qui est faible et qui ne peut pas, personne ne le pousse. Personne ne le pousse à ce qu'il aille tomber, yani, dans le feu à cause des autres. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Et j'espère, bi'idhnillah ta'ala.
Une question suivante. Et avant cela, je demande au frère qui a posé une question avec le pseudo Fulan sur le site, qu'il me contacte en PV, Inch'Allah. Donc, question d'un frère. D'ordre général, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous récompense grandement pour les cours et le temps que vous nous donnez, vous et les admins. Je voudrais savoir par rapport à la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, que l'on doit faire tawba chaque soir avant de dormir si on veut être, épargné du châtiment de la tombe. Doit-on lever les mains comme pour une dua? Parce que j'ai peur que ce soit une bid'a de les lever. Pouvez-vous nous dire comment doit-on s'y prendre, Inch'Allah? Tfadal, cher.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai bien entendu la question. Et Inch'Allah ta'ala, je vais vous répondre dans quelques idnillah subhanahu wa ta'ala. Salam wa alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Donc, pour la personne qui avait dit que elle prenait de la vie de Al-Qayyim rahimahullah, qui a dit que chaque soir, yani, la personne avant de dormir doit faire tawba, etc. En fait, la personne, yani, chaque soir avant de dormir, elle doit faire à peu près ce qu'on appelle, comment qu'on appelle ça, yani, si je puis dire, un bilan de la journée, naam, pour voir qu'est-ce que, yani, la personne a dû faire de choses qui ne conviennent pas, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Et si ce sont des choses qui se rattrapent pour rattraper le lendemain, bi'idhnillah ta'ala. Comme yani, c'est aussi une occasion, quand on fait le bilan, et de voir par exemple qu'on a fait les 5 prières à l'heure, par exemple si c'est un homme, les 5 dans la mosquée, que cette journée-là, par exemple, j'ai rendu visite à un malade, ou bien j'ai jeûné, ou bien, c'est aussi une occasion de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma. Il n'a pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui a jeûné aujourd'hui si j'ai jeûné moi, car ce n'est pas le ramadan. Naam. Et ce n'est pas tout le monde qui a fait les saintes prières à l'heure et dans la mosquée comme ça. Alhamdoulilah, donc pour une ni'ma. Je dis, reste maintenant, yani, si j'ai trouvé que c'est une ni'ma, ou bien j'ai trouvé que yani, j'ai fait beaucoup de fautes et je veux faire tawba, est-ce que je lève les mains ou je ne lève pas? La réponse est très simple. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, il dit que faire les doigts, ça se divise en trois, le fait de lever les mains dans les doigts. Il y a aussi sunnah. C'est sunnah. comme il a dit fi Arafat, comme il a dit Safa ou Marwa, Naam. Il a cité encore deux ou trois endroits, Naam, où c'est sunna de lever les mains. Il y a où c'est le contraire. C'est interdit de lever les mains. Comme par exemple, quand l'imam est sur le minbar yom jumwa, il veut faire des doigts, il ne lève pas les mains. Seulement, il lève le doigt comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou, par exemple, je suis dans le sujoud. Je prie, je suis dans le sujoud. J'ai envie de faire des doigts. Est-ce que je lève les mains? C'est interdit. Non. Ou alors dans le ruku'a. Pourquoi je dis c'est interdit? Les rawafid, ils disent c'est permis. C'est pour cela que si vous êtes à la mosquée, surtout quand vous allez, inshallah ta'ala, à la Umrah ou bien le Hajj, vous allez voir, il y a beaucoup là-bas de chiites, par exemple, qui vont venir. Comment tu vas le remarquer? Quand il est incliné, ensuite il se relève, il dit, Sami Allah li min hamida. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on lève les bras, hein, on lève les mains au niveau des oreilles, par exemple. On dit, Sami Allah li min hamida. Eux, qu'est-ce qu'on là, exactement dans cette position, ils lèvent les mains et regardent le ciel. Ils font des doigts en disant Sami Allah ibn Hamida, font les bras et les mains vers le visage et regardant le ciel et en faisant des doigts. C'est interdit de faire les doigts. Al-Muhim, ça c'est la deuxième chose, donc là où c'est interdit. Reste la troisième sorte, c'est quoi? Là où il n'y a sunna de faire ni interdiction de ne pas faire. C'est dans tous les autres moments. Là maintenant, je suis assis avec vous. Ensuite, par exemple, je me rappelle une chose importante. Et je veux demander à Allah Ta'ala, je vais faire doigt. Ou alors, je viens d'apprendre quelque chose qui fait mal ou j'ai peur et je vais faire doigt pour que Allah Ta'ala refoule de moi ce mal. Là, il n'y a ni sunna de faire, de lever les mains, ni de ne pas lever. Donc, comment je fais? Cheikh Ibn Uthaymeen dit, tu es libre. Tu lèves les mains ou tu ne lèves pas. Même il dit, si on dit que il est mieux de lever. À cause de quoi? À cause de la base. La base dans les doigts, c'est de lever des mains. À cause du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala, a de la pudeur quand son serviteur lève les mains pour faire des doigts et il les lui rend vides. Donc la base, c'est que quand je vais faire des doigts, je lève les mains. C'est ça la base. Sauf là où il y a interdiction de lever. Mais pour que ça ne devienne pas chez moi ça, une habitude que je ne pourrais plus lâcher au point que je peux rentrer dans la bid'a, donc de temps en temps, qu'est-ce que je fais? Je ne lève pas les mains avec les doigts. Donc je dis à cette personne, de temps en temps lève, de temps en temps ne lève pas. Et comme ça, même si lever est plus arjah que ne pas lever. Mais de temps en temps, il ne faut pas lever pour ne pas faire rentrer la chose dans la bid'a, inshallah ta'ala. Tfadhal. Wallahu azza wa jalla a'lam.
Allahu fikum, cher. Question suivante, question d'un frère. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Jazakum Allahu khaira pour ce cours bénéfique. Vous avez dit que l'on peut tester une personne. Est-ce applicable dans le cas de vouloir tester l'imam de notre mosquée en posant des questions pour connaître son ménage? Barakallahu fikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Si on veut le tester, parce qu'il y a quelque chose qui dépend de ce test. Quand par exemple, on a le choix entre deux personnes et on ne sait pas qui on doit laisser. Donc, ici, il faut que je le teste. Il faut que je teste les deux pour savoir lequel des deux est le plus proche de la sunna ou bien lequel des deux est vraiment dans la sunna. S'ils ne sont pas les deux dans la sunna, au moins, lequel des deux est le plus proche. Naam, est le plus proche. Donc maintenant, si je veux tester l'imam, car derrière ce test, il y a quelque chose, c'est pas tester pour tester, mais tester pour prendre une décision. Est-ce qu'on le laisse? Est-ce qu'on le laisse pas? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on ne le change pas? Est-ce qu'on fait des mises en garde entre lui? On ne fait pas? Naam, s'il y a quelque chose de bénéfique derrière ce test, bidna ta'ala, c'est permis. Wallahu ta'ala alam, tfadhal.
Question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'aurais voulu savoir comment se passe une khitba lorsqu'une sœur porte le sitar et qu'elle n'a pas de mahram. Elle choisit un tuteur, mais comme ce n'est pas un mahram pour elle, il n'a pas le droit de voir son visage. Doit-elle se mettre dos au tuteur pour que le frère voie son visage, mais pas son tuteur? Ou comment faire? Barakallahu fikoum. Une autre question, cher. Qu'un frère demande, et pour que vous y répondiez de façon générale, il dit, est-ce qu'il est autorisé de rester écouter votre dars et ne pas aller à Salat en jamaa, c'est-à-dire ne pas aller à la mosquée? Je lui ai répondu, et pour moi c'est évident, qu'il est mieux d'aller donc à la Salat, sachant que le cours, il pourra toujours le réécouter. Alors que la Salat en jamaa, c'est une fois, il pourra pas la refaire. Mais le frère Abou Mohamed aimerait que vous répondiez pour tout le monde, pour faire une nasiha pour tous ceux qui se posent la question, et peut-être que même certains restent à écouter votre dars et ne vont pas à la mosquée. Tfadal cher.
Allahu Akbar, puisque tu peux répondre comme ça, Allah ybarak, mashallah. Déjà, si je m'absente des fois passées, c'est Allah qui va faire le cours. Mashallah. Ensuite, remarque, écrive ce soir, surtout quand tu es prête. Alors maintenant, toutes les sœurs vont t'écrire. Al-Muhim, je dis, inshallah, que cette sœur, je dis donc, inshallah, ta'ala, cette sœur, que son tuteur, quand il vient, là, il peut rester sur le seuil de la porte. Il n'est pas au milieu de la chambre pour qu'il ne voie pas ton visage, ni dehors. Mais il reste sur la seuil, le seuil en donnant du dos. Car yani, le frère qui va la voir, ce n'est pas, il ne va pas rester yani, 1 heure pour la voir. Juste pour avoir une idée. Donc l'autre, inshallah ta'ala, est devant le seuil. En donnant du dos, bi'idhnillahi ta'ala, wallahu azawajal a'lam. Par rapport à rester, écouter un cours, alors que on monte en adhan, ou bien qu'on est proche de la mosquée, de façon à ce que, s'il avait fait l'adhan sans micro, on l'aurait entendu, s'il n'y avait pas d'immeuble et de vent, et que lui, il avait une forte voix, dans ce cas, c'est interdit de louper la salat à cause du cours. Surtout, que le cours peut-être écouté en différé, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam, tfadhal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Question d'une sœur sur le cours qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, Abu Abdullah. Avant, alhamdoulillah, on avait la baraka dans notre argent, alors que l'on n'en avait pas forcément beaucoup. Mais maintenant, nous n'avons plus la baraka, mais en plus, on n'a vraiment que très peu. Et en plus, nous avons des dettes. Que faire afin qu'Allah nous redonne la baraka dans notre argent? Quels conseils nous donnez-vous en général afin que nous ayons la baraka dans notre argent? Barakallahu fikoum, cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. D'abord, ce qu'a dit la sœur ici, naam, comme vous devez le remarquer, subhanallah al-azim, c'est devenu général. C'est devenu général. Il n'y a plus de baraka presque en rien. Non. Ni dans le temps, ni dans les biens, ni dans les enfants, ni en rien. Ni dans le manger, non. Dans les fruits. Ça n'a plus de goût. Ça n'a plus de goût comme les vrais fruits et comme ça. Non. En rien maintenant, il n'y a la baraka. Le temps, tu regardes à droite, à gauche, la journée est passée. Tu regardes à droite, à gauche, la semaine est passée. Le ramadan, vous savez combien il reste de jours pour le ramadan? 3 mois. 3 mois seulement. Et c'est comme hier, subhanallah al-azim. Et chaque jour qui passe, tu vieillis de ce jour. Et c'est un jour qui part de ta vie. Et c'est un jour qui te rapproche de la tombe. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu t'es préparé? Non, subhanallah al-azim. Je dis, la première des choses, non, pour faire, qu'on doit faire pour que la personne ait la baraka, c'est d'être yani, sincère, d'être véridique et de s'éloigner des mensonges. D'être véridique, sincère et de s'éloigner des mensonges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari, et je crois que même musulman, et Bukhari c'est sûr, il a dit Al-bay'an. Al-bay'an, ça veut dire le vendeur et l'acheteur. Il a dit quand ils vendent, qu'ils disent la vérité et ne cachent pas les défauts, alors, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala leur fera la baraka dans leur vente. Et s'ils mentent ou ne montrent pas les défauts, Allah subhanahu wa ta'ala baraka de leur vente. C'est pour ça que toute personne qui ment et qui n'est pas véridique, Allah subhanahu wa ta'ala lui retire la baraka. Surtout dans la vente. Quand tu vends quelque chose qui est trafiqué, tu dis je ne montre pas le défaut qu'il y a, sinon on ne va pas l'acheter. Je ne dis pas que la voiture a un défaut dans le radiateur. Sinon, il ne va pas acheter. Et alhamdoulilah, ça dirait, tu vends la voiture, et tu vas dire après, tu vas dire, alhamdoulilah, subhanallah, je l'ai vendu. Même peut-être tes amis vont te dire, subhanallah, tu es très intelligent. Tu l'as eu, vraiment, il n'a rien vu. Il n'a vu que du feu. Oh, mashallah, comme tu es un débrouillard, Allah ibarak, il n'a rien vu, il n'a pas remarqué le trou dans le radiateur. Mashallah, tu es vraiment mashallah. Ici, qu'est-ce que tu as fait? Tu as caché le défaut, tu as menti. Le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Tu n'auras pas de baraka dans ta vente. Alors, cet argent que tu as pris, disons par exemple 10 000 euros, par exemple, ils ne vont pas rester une semaine chez toi, un mois, ils vont partir. Et tu vas acheter avec, peut-être, tu vas acheter une voiture, tu vas faire un accident. Allahu Akbar. Pourquoi? Tu as cru que tu étais vraiment yanné, mashallah, et voilà, tu es tombé dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu n'as pas été véridique. Al-Muhim, le hadith a dit que si tu veux la baraka, il faut être véridique, il ne faut pas être un menteur. Et la grande baraka alors serait d'être véridique avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si toute personne ne pensait qu'à ravir Allah, ne pensait qu'à se rapprocher d'Allah, ne pensait qu'à yani, comment avoir l'agrément d'Allah. Elle fait de ça ses soucis. Elle fait de ça yani, ses peines et sa joie. Alors elle verra qu'elle aura la baraka dans tout, dans son argent, dans tout. Et celui aussi qui a de l'argent et qui veut la baraka dans son argent, qu'il en donne. Qu'il en donne. Comme a dit le sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Et ce hadith se trouve dans Sahih al-Bukhari. Il a dit que chaque matin, il y a deux anges qui font des doigts. Le premier, il dit Ya Allah, donnez à chaque personne qui donne, c'est-à-dire aujourd'hui, donnez-lui, yani, disons, récompensez cette personne en lui rendant yani, son argent au plus. C'est la doua du premier ange. Et le deuxième, il dit à Allah, toute personne qui a été avare aujourd'hui n'a pas donné, yani, faites-lui partir son argent, naam, comme si je puis dire, la part qu'il devait donner n'a pas donné. Allahumma, a'ti munfiqan khalafa. Et le deuxième dit, Allahumma, a'ti Mumsiken, celui qui ne veut pas donner, telefa, faites-lui perdre de son argent. Donc quand quelqu'un donne, Allah Ta'ala lui fait la baraka dans son argent et lui en donne davantage. Quand il devient avare, Allah Subhanahu wa Ta'ala va le châtier et lui faire aller son argent, perdre son argent, qu'il veuille ou pas, bi'idna ta'ala. Puisse Allah Subhanahu wa Ta'ala nous aider. Tfadval.
Question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous récompense pour tous les efforts que vous faites, ainsi que vos admins. Amin. Une sœur demande, cela fait maintenant 6 ans que je suis divorcé, sans enfant, et que je cumule les prétendants sans qu'aucun aboutisse au mariage. Alhamdulillah. J'ai fait les causes en vain. Je sais que ceci est mon qadr, et alhamdulillah ala kulli hal. Je m'en commode, mais ma famille ne cesse de me mettre la pression et de me faire culpabiliser. Et Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne suis qu'un être humain et je souffre de ma situation. Je ne cesse de faire des invocations pour qu'Allah m'accorde un mari pieux et me facilite avec ma famille. Mais ma famille me dit qu'Allah me punira car je suis trop compliqué. Je fais tout pour rester chaste et d'être bonne envers mes parents et ma famille. Mais avec les années, cela devient difficile. Conseillez-moi, Yachir. Fadal Shir.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc cette sœur dit bien que, attendez que je relise ici, je cumule les prétendants sans que ça n'aboutisse au mariage. Vous les admins ont bien compris. Elle veut dire là que pendant Yonna, Masha'Allah, n'est-ce pas? Dites ainsi, c'est vrai. Ce que j'ai compris. Je cumule, ça veut dire que, alhamdoulilah, il y en a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour que je réponde? Il y en a, je cumule, il y en a. Je remarque. Il y en a, Masha'Allah. Et la deuxième, quand on lui dit, Allah te punira, car je suis trop compliqué. Si la femme a dit que tu es trop compliqué, sûrement qu'ils ont remarqué des choses. La preuve, il y a des demandes et ça n'aboutit à rien. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est de yani, revoir, c'est de te revoir toi-même, Naam, et dire pourquoi ils viennent et je ne me marie pas. Pourquoi yani, je demande des choses qui peuvent être obligatoires et yani, de par ces choses-là, je deviens compliqué et je ne me marie pas. Et tu as dit maintenant, ça fait 6 ans. Maintenant, le temps passe vite. Demain, ça va faire 10 ans, ensuite 15, ensuite 20. Et la femme, vous savez, quand elle dépasse 40, yani, elle devient difficilement mariable, comme on dit. Naam. Donc je dis à cette sœur, Allah subhanahu wa ta'ala alam, c'est de faciliter, inshallah ta'ala, pour que Allah ta'ala te facilite. Naam. L'essentiel, c'est de sortir de la maison où on te fait la pression et de te trouver avec un homme, inshallah ta'ala, qui quoi? Qui, comme a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah, écoutez ce qu'il dit cette phrase, mashallah, il dit, on ne doit pas blâmer, on ne doit pas blâmer, naam, une lumière entachée d'obscurité, où il y a de l'obscurité, s'il n'y a pas la lumière totale, Allahu Akbar, on ne doit pas blâmer une lumière contenant un peu d'obscurité s'il n'y a pas de lumière totale. Qu'est-ce que tu voudrais, toi? Est-ce que tu voudrais être dans une pièce où il n'y a aucune lumière, ou bien tu voudrais être dans une pièce où il y a une bougie? On te dit, il n'y a pas de lampe. Choisis. Il n'y a ni lustre, ni lampe, ni lampadaire. Choisis. Tu vas passer la nuit dans une pièce toute noire, naam, obscurité totale. Ou bien, on va te laisser une petite bougie. Une petite bougie qui, mashallah, elle n'éclaire que elle est pour voir un mètre devant toi, mais quand même, il y a la bougie. C'est ce que je donne comme conseil aux gens pour se marier. Naam. Sois ravi de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit. Naam. Ne cherche pas à devenir, yani, à chercher un mari. Il faut qu'il soit millionnaire, il faut qu'il soit, il ait un appartement, yani, grand luxe, il faut. Naam. S'il a le minimum, mashallah ta'ala, tawakkal ya Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans le din, ne soit pas, yani, il faut qu'il soit, yani, complet. Il faut qu'il soit pieux, qu'il soit talibouin, et qu'il connaisse tout, qu'il ait lu tous les livres de Cheikh Ibn Uthaymeen. Non. Si tu fais comme ça, tu te marieras peut-être jamais, ou alors très très difficilement. Mais alhamdoulilah, s'il remplit les conditions, il contient quelques défauts, ma'alish. Les défauts, inshallah ta'ala, je vais lui faire la da'wa, je vais ceci, cela. Le temps, l'essentiel, c'est que je me case, je sors de mes parents, je fais des enfants, inshallah ta'ala. J'éduque mes enfants, même si mon mari a un défaut, ma'alish. Mes enfants, inshallah, je vais essayer qu'ils soient des pieux, des talibouins, mais comme ça, inshallah ta'ala. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider et te donner un mari, comme tu le souhaites, incessamment, inshallah ta'ala. Fadal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante sur le cours, question d'une sœur qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question concerne les histoires racontées des Banu Israël. Je n'ai pas très bien entendu et donc pas compris ce que nous pouvons prendre de leurs savants. Les trois points, pouvez-vous les répéter? Barakallahu fikoum, cher.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, par rapport à ce qui vient de Banu Israël. J'ai dit, s'il y a dans le Coran, c'est vrai, donc c'est vrai. S'il y a dans le Coran que c'est faux, Coran ou Sunna, bien sûr. S'il y a que c'est faux, c'est faux. Maintenant reste ce qui vient de leurs savants. Ce qui vient de leurs savants se divise en trois. Une seconde ici. Tranquille, une seconde. Une seconde, je vais voir comment qu'il a résumé. Bon, c'est pas ici. C'est pas ici. Ah. Il a dit donc le premier. Ça se divise en trois. Le premier. Ce qu'a dit le Coran, ce qu'a dit le Coran, que yani, c'est compatible avec yani, ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Il a dit ça, on le prend. Maintenant, ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, que c'est pas compatible. Celui-là, on le rejette. Il reste la troisième sorte, c'est il n'y a ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni ce qui est cela, ni que si, ni qu'il y a ce qui est infirme, ce qui dit que c'est faux. Vous avez compris? Il n'y a ni dans le Coran et la Sunna, ni ce qu'il dit que c'est vrai, il faut l'accepter, ni ce qu'il dit c'est faux, il faut le rejeter. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être neutre. Ni dire que ce compte-là est faux, car peut-être il est vrai et on va le renier, ni dire il est vrai, alors que peut-être il est faux et on va croire à quelque chose de faux. Donc on va rester neutre par rapport à telle ou telle histoire. Mais, comme a dit le prophète Aslam, c'est permis de raconter cette histoire si on montre que ça vient de Ben Israël. Et qu'on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux. On dit que voilà, il y a une histoire de Ben Israël, comme quoi il s'est passé ceci ou cela. Hein? Vous avez compris pourquoi? Car il n'y a pas quelque chose pour dire que c'est vrai, il n'y a pas quelque chose pour dire que c'est. Il a dit dans ce cas, comme a dit Sam, il a dit, Hadithu an Bani Israël, wala haraj. Racontez ou la parlez de Ben Israël, des enfants d'Israël, wala haraj. Et il n'y a pas de mal en cela. Comme ça, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, si bien sûr, à condition que ça ne soit pas, par exemple, dans la Aqidah. Dans la Aqidah, tu ne peux pas raconter des choses de Ben Israël alors que tu ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais si c'est quelqu'un, des choses comme ça, des histoires qui, si tu les racontes, ça, par exemple, ça pousse à faire des choses, des adorations, ça pousse à aimer Allah en plus. Permis, inchallah ta'ala, targhib ou tarhib.
Question suivante, question d'une sœur, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est comment doit-on regrouper les prières, par exemple, en faisant le dhuhr et l'asr en 4 rak'at, en mettant la niyya des 2 salats, ou comment doit-on les effectuer et lors d'un voyage? Quand on raccourcit les salats, doit-on lire à haute voix pendant les 2 rak'at du maghrib et du Aïcha, sachant qu'on les raccourcit. Pour le Maghreb, on le raccourcit pas même quand on est en voyage. Fadal Cher.
Elle dit comment doit-on, yani, comment regroupe-t-on les salats, par exemple, dhuhr avec asr. Dhuhr avec asr, yani en 4 rak'at. Pour regrouper dhuhr avec asr, premièrement, il faut avoir une raison. Il faut avoir une raison. Naam. Maintenant, si on a une raison et on veut regrouper dhuhr avec asr, ou bien, par exemple, le moment du dhuhr est rentré ou bien il n'est pas rentré. Si le moment du dhuhr est rentré, donc je vais prier dhuhr, 4 rak'at. Quand je termine, je fais l'iqama encore une fois. Et je fais salat al-asr, 4 rak'at. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé salat al-asr. Maintenant, supposons que ça ne soit pas le moment du dhuhr. Et je vais voyager. Ce n'est pas le moment du dhuhr. Comment je fais? Là, je suis monté dans l'avion. Donc, je vais laisser le dhuhr pour le faire avec le asr. Quand je vais atterrir là-bas, dans la ville où je vais ou le pays. Et là-bas, quand j'arrive, je fais le dhuhr, je fais l'adhan, je fais salat le dhuhr. Quand je termine, je fais l'iqama et je fais salat l'asr. Et dhuhr et asr, dans ce cas, puisque j'ai voyagé, je vais les raccourcir. Je vais faire seulement 2 rak'at, 2 rak'at. Et dhuhr et asr, bien sûr, je vais lire à voix basse. Maintenant, si c'est Maghreb et Isha, si je vais raccourcir, le Maghreb ne se raccourcit jamais. Donc, je vais raccourcir Isha. Je vais, par exemple, prier Maghreb et Isha. Maghreb, 3 rak'at. Les deux premières à voix haute, la troisième à voix basse. Ensuite, Isha, je vais prier seulement 2 rak'at. à voix haute, seulement deux rak'at. Et j'ai enlevé les deux dernières. Et quand je dis à voix haute ou bien à voix basse, tout cela c'est sunnah. Ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que si j'oublie de lire à voix haute dans une salat à voix haute et j'ai lu à voix basse, je n'ai pas de prosternation. Je n'ai pas de sujoud de prosternation. Ou alors j'ai fait le contraire. Salat Allah, j'ai lu à voix haute. Je n'ai pas de prosternation. Parce que c'est tout juste, j'ai raté une sunna ou bien j'ai fait une sunna en plus. C'est tout. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse, bi'idnillah ta'ala. Tfadlal.
Wa alaykoum cher, barakallahu fikoum. Question d'une sœur. Assalamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre famille. Vous avez dit que l'on remercie Allah ta'ala que lorsque l'on remercie Allah ta'ala pour un bienfait, Allah ne retire jamais ce bienfait. Pouvez-vous être plus précis et nous donner des exemples? Est-ce que ce bienfait peut aussi être une épreuve, un mal qui, bien sûr, n'est qu'un bien en finalité? Y a-t-il des conditions? Barakallahu fikoum, cher.
Rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Une seconde, je redis. Vous avez dit que lorsqu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour un bienfait, Allah ne retire jamais ce bienfait. Pouvez-vous être plus précis et nous donner des exemples? Est-ce que ce bienfait peut être aussi une épreuve, un mal qui, bien sûr, n'est qu'un bien en finalité? Y a-t-il des conditions? Donc, pour la première moitié de la question, vous avez dit que lorsqu'on remercie Allah ta'ala pour un bienfait, Allah ne retire jamais ce bienfait. Pouvez-vous être plus précis et nous donner des exemples? Naam. Le plus bel exemple que je peux donner, inshallah ta'ala, le plus bel exemple que je peux donner, bi'idnillah ta'ala, naam, c'est l'exemple de la meilleure et la plus grande ni'ma qui puisse exister dans le monde. Ni'ma de la guidée de l'islam. Jamais Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné cette ni'ma à une personne et l'a fait sortir du coffre ne va laisser cette personne apostasier, c'est-à-dire lui retirer la ni'ma de l'islam. Et apostasier, c'est quoi? Si elle n'a pas changé. Il y a toujours dans son cœur l'amour d'Allah. S'il y a toujours dans son cœur vouloir l'agrément d'Allah, vouloir le paradis, la peur de l'enfer, la de l'épargne de l'enfer, jamais, jamais, jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne va lui retirer cette ni'ma de son cœur. Vas-y. C'est pour cela que toute personne qui adore Allah Ta'ala avec sincérité, fait les obligations, fait les sunnah, fait les surrogatoires, dans le monde, dans ceci, jamais, naam, elle ne meurt, Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre elle. Toujours, Allah subhanahu wa ta'ala lui fait des causes pour qu'elle meure, masha'Allah, pour qu'elle meure, masha'Allah. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde, je cherche le verset, une seconde, il a dit dans le Coran, une seconde. Vous allez voir le verset. Pourvu qu'il soit bien traduit, c'est tout. Inch'Allah ta'ala. Pourvu qu'il soit bien traduit, c'est tout. C'est pas là. Une seconde. Nisa'ukum hafa'tu hartakum anna shi'tum. Wa qaddimu li anfusikum. Wa alamu annakum mulaquu wa bashir al-mu'minin. Regardez ce verset, mashallah, qu'est-ce qu'il dit. Hein? Regardez. En français, je ne sais pas comment qu'il est traduit, mais on va voir. Je ne sais pas comment qu'il est traduit. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ et quand vous le voulez. Et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et faites gracieuse annonce aux croyants. Regardez le dernier verset. Craignez Allah et sachez que vous allez le rencontrer. Mais la bonne nouvelle aux croyants. Donc, celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui est sûr qu'il va le rencontrer, et avant cela il a dit, et œuvrez pour vous à l'avance. Donc celui qui œuvre, qui craint Allah, sûr qu'il va le rencontrer, je lui annonce dès maintenant la bonne nouvelle. J'annonce la bonne nouvelle à ce croyant. C'est quoi ici la bonne nouvelle? Que je vais rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ravi de moi. Comme ça on dit, les exégètes, mufsirun. Bashir Mouminin. Naam. De la rencontre, vous allez le rencontrer. Et je t'annonce la bonne nouvelle que il sera ravi de toi. Donc, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un est véridique avec Allah, sincère, il le craint, il l'adore, Allah subhanahu wa ta'ala ne le laissera jamais, ne prendra jamais cette ni'ma de lui, bi'idhnillahi ta'ala. Reste la deuxième partie, inshallah ta'ala. Tu vois la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie. Comme ça, il reste une demi-heure, inshallah ta'ala. Je cherche donc la question. Dans la question, il y a la deuxième partie. Pouvez-vous, je peux juste donner des exemples. Est-ce que ce bienfait peut être aussi une épreuve, un mal qui, bien sûr, n'est qu'un bien en finalité. Un bienfait n'est jamais, un bienfait ne peut jamais être, yani, qu'est-ce qu'on dit ici? Une épreuve. Un bien. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il éprouve les gens, il l'éprouve des fois avec le mal. Allah ta'ala dit dans le Coran, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَا. Une seconde. بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَا. Une seconde. Je sais que quand quelqu'un voit le verset, c'est pas comme il l'entend seulement. C'est pas comme il l'entend seulement. نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Une seconde. Regardez ce verset. Kullu nafsin da'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal-khayri fitna wa ilayna turja'un. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouvons par le mal et par le bien. Donc c'est ça le témoin. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Et, ou qu'est-ce qu'on va faire? Ou là on va insulter Allah subhanahu wa ta'ala et insulter le destin. Et des fois, il nous éprouve par le bien. On a un bien. Va t'éprouver. Est-ce que tu vas remercier Allah subhanahu wa ta'ala ou bien tu vas être ingrat et il va te le reprendre? Est-ce que il t'a donné le bien? Est-ce que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala? Et remercier, la moindre des choses, c'est de remercier avec sa langue et de dire Alhamdulillah ya Allah, etc. Sinon, on peut remercier aussi avec quoi? Avec les actes. Et c'est mieux que la langue. En donnant, par exemple. En donnant de cette chose. Naam. Donc là, j'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala mieux que de le remercier avec la langue. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Une seconde. Regardez ce verset aussi, regardez ce verset. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Souleymane, un sanctuaire, statue, plateau, les djinns, il parle des djinns, comme des bassins, un bassin avec S, et marmite bien ancrée. Oh, famille de Daoud, œuvre répétitude. Y'amalou, ala Daouda, shukran. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Œuvrer par gratitude. Si tu veux montrer que tu n'es pas ingrat. Merci. Il t'a dit ici, œuvrer. Donc c'est pas seulement tu dis à Allah, je te remercie, mais la preuve d'être aussi l'œuvre. Tu dois œuvrer pour prouver que tu n'es pas ingrat. Je voulais donner comme dalil que, yani, c'est pas seulement remercier les œuvres, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante. Question d'un frère qui est un peu longue. D'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah wa jazakum Allah khairan pour votre temps. Je suis un frère converti à l'islam. Et Alhamdoulilah, je ne suis pas le seul dans ma famille, puisqu'il y a également mon petit frère et ma petite sœur qui se sont convertis à l'islam depuis quelques années. Alhamdoulilah. Mes parents ont appris la conversion de mon frère et moi-même il y a un peu plus d'un an. À cette période, on a subi quelques préjudices moraux et physiques. Ils ont notamment essayé d'arrêter de manger, comme une grève de la faim, de se faire mal physiquement à l'aide d'objets dangereux. Depuis que cette période est passée, mes parents, lorsqu'ils sont énervés et ou tristes, s'en prennent verbalement et moralement à ma petite sœur, tout en croyant qu'elle n'est pas musulmane. Ma petite sœur n'a pas annoncé à mes parents qu'elle s'est convertie à l'islam. En effet, mes parents lui reprochent de rien nous dire de mal sur l'islam, de ne pas critiquer la manière dont nous pratiquons l'islam, c'est-à-dire la barbe, la non-participation à leurs fêtes non musulmanes, pantalon au-dessus des chevilles, etc. Et lui met de la pression morale en parlant de leur peine. Le souci est que ma petite sœur a des problèmes de santé et ses disputes à répétition ont l'air d'avoir une influence négative sur son état de santé. Lors de son dernier entretien avec son médecin, il y a quelques jours, il lui a dit que son problème de santé au cœur s'était aggravé. Mon frère et moi souhaitons nous marier, bi'idhnillah. À de nombreuses occasions, j'ai discuté du mariage avec mes parents, et notamment sur le fait de savoir s'ils préféraient ou pas une femme de leur origine, connaître quelques-uns de leurs critères. Mes parents sont ouverts à tout type d'origine, mais ne veulent pas une femme musulmane. Ils veulent une femme athée, et encore moins une femme voilée. À ceci, je leur ai répondu que c'était impossible. Mon frère et moi avons la possibilité et les moyens de nous marier, Inch'Allah. En ce qui me concerne, je vis seul dans un appartement alors que mon frère vit encore chez mes parents. Pour nous, il est de plus en plus difficile de patienter en tant que célibataire. Nous souhaitons, mon frère et moi, et moi-même, nous marier religieusement uniquement sans avertir nos parents. En effet, nous pensons qu'il serait peut-être préférable de présenter nos femmes petit à petit à nos parents une fois mariés, tout en leur faisant croire que nous ne sommes pas mariés civilement. En effet, on ne sera pas marié à la mairie. En gros, nous voudrions ruser dans le vrai sans chercher à mentir, bi'inillah. Que nous conseillez-vous, tout en sachant que la situation de mon frère et la mienne ne sont pas totalement identiques? Mon frère vit chez mes parents alors que je vis seul. Fadashir.
Confirmez, salam alaikum, confirmez-moi que vous avez compris que les parents n'est pas ça. Vu que la mère était. Oula, des koufars. Des musulmans. Ah. Et maintenant, il n'y a pas de couple. Donc, je mets maquillage, etc. Là, ça coupe. Je sors et je reviens, inshallah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdoulilah. Donc reprenez-moi, inshallah ta'ala, si je n'ai pas bien compris. Donc il est question ici du mariage des deux frères qui disent qu'ils veulent se marier et que les parents ne sont pas d'accord, il faut que ce ne soit pas une musulmane, etc. etc. Je dis, ils peuvent se marier sans quoi? Sans l'avis des parents. Et encore moins sans leur consentement. Pourquoi? Parce qu'en islam, quand un homme se marie, il n'a pas besoin de tuteur. C'est pas comme la femme. Donc il se marie et après, comme il a dit ici, petit à petit, il leur apprend que voilà, il est déjà marié, etc. Et que ils seront obligés d'accepter après année, comme il a dit petit à petit. Même s'ils n'acceptent pas, ce sont eux les fautifs. Ce sont eux les fautifs et non pas ni toi ni ton frère. Ce sont eux qui n'acceptent pas la vérité. Donc, leur avis n'est plus important. Leur avis et leur choix ne sont plus importants parce qu'ils sont contraires aux préceptes de l'islam. S'il y a quelque chose dans cette question à laquelle je n'ai pas encore répondu, dites-le-moi. Tfadlal.
Il me semble que Cheikh ait répondu à tout. Si c'est le cas, mets un. S'il n'a pas répondu à tout, mets deux. Sinon, je lui pose une question, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Question suivante. Liée au cours, question d'un frère qui dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'aurais une question liée au cours, au sujet du remerciement d'Allah. J'ai appris récemment que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait une recommandation à Mu'adh ibn Jabal, en le prenant par la main et en lui disant « Par Allah, je t'aime vraiment. Je vais te faire une recommandation, Mu'adh. Ne renonce pas à dire, après ou à la fin de chaque prière, une dua, demandant à Allah qu'il nous aide à l'évoquer et à le remercier. » Je voulais savoir s'il y avait d'autres doigts à dire et si c'était la meilleure doigt pour remercier Allah. Jazakumullah
wa khaira. En fait, c'est l'une des meilleures doigts qu'il y a, il y en a pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, elle englobe trois choses. Allahumma a'inni ala dhikrik. Ya Allah, aidez-moi pour vous mentionner. Ou alors dhikrik pour vous invoquer. En lisant le Coran et en lisant des livres d'islam, etc. Wa shukrik. Et aidez-moi à vous remercier. Toi, tu ne veux pas remercier Allah subhanahu wa ta'ala de toi-même, en faisant l'ostentation comme quoi moi je remercie Allah, mais tu as reconnu ta faiblesse et que si il ne t'aide pas, tu ne peux pas le remercier. Donc tu dois demander à Allah, aidez-moi à vous remercier. Wa husni ibadatik, et aidez-moi ya Allah à vous adorer de la meilleure façon. Donc c'est l'une, inshallah ta'ala, des meilleures doigts en ce qui concerne comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon je dis, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, des fois on le remercie en œuvrant. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, je vais donner, par exemple, 1 euro à quelqu'un, un démuni. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai remercié Allah subhanahu wa ta'ala de sa ni'ma. Et j'ai donné de sa ni'ma, un peu de sa ni'ma, pour le remercier. C'est pas la peine que je dise avec ma langue. Car remercier, comme je vous l'ai dit une fois, se fait avec le cœur, se fait avec la langue, et se fait avec les œuvres, comme on l'a cité tout à l'heure. Donc, yani, il y a 1000 façons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je bois, je dis alhamdoulilah. Quand je mange, alhamdoulilah, alladhi ta'amani hada wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Naam. Et à chaque fois qu'une bonne chose m'arrive, je dis alhamdoulilah, alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Et je peux remercier comme ça toute la journée. Alhamdoulilah pour les enfants, alhamdoulilah pour la maison, mon travail, alhamdoulilah pour mes études, alhamdoulilah pour que je suis en train de faire la prière à l'heure, alhamdoulilah pour le voile, alhamdoulilah, et je n'arrête pas. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tafadhal.
Question suivante, question d'un frère, d'ordre général. Salam alaikum wa rahmatullah. Hafizakum Allah Abu Abdillah. Un frère demande, j'ai appris l'arabe, alhamdoulilah, je sais le lire et l'écrire, et je continue à apprendre la grammaire, alhamdoulilah. Et en même temps, j'essaie d'apprendre le din et d'étudier les livres utiles. Je ne sais pas si je dois étudier ces livres avec l'explication de prédicateurs salafis de France ou bien avec celle des savants en langue arabe directement. Mais j'ai peur, en écoutant l'explication des savants directement en langue arabe, de ne pas comprendre parfaitement tout ce qu'ils disent ou de comprendre le contraire de ce qu'ils disent à cause de mon petit niveau en langue arabe. Et on me dit qu'il n'est pas bon de prendre sur din des petits visant par là les prédicateurs de France. Je ne sais donc pas si je prends des prédicateurs ou bien si j'attends de mieux maîtriser la langue arabe. Barakallahu fikoum. La chère.
Fikoum barakallah. Alaykoum salam wa barakatuh. Le hadith, ou ce qu'il dit, que ça fait partie de la fin des temps de prendre des petits, premièrement, la plupart ont dit les petits, ça veut dire les gens de la bid'a. Deuxièmement, si on va prendre des petits, on va dire les petits, ce sont les petits. En général, ce ne sont pas les gens de la bida. Il ne faut pas oublier que ça fait partie de la fin des temps de prendre des petits quand il y a possibilité de prendre des grands. Voilà ce que veut dire le hadith. Mais si moi, je n'ai d'autre solution que de prendre des petits, il faut que je prenne des petits. Vous avez compris? Donc toi, tu ne maîtrises pas l'arabe. Et si tu ne vas pas prendre des petits, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que tu dois attendre d'apprendre l'arabe. Et tu peux rester des années et dire que je n'ai pas beaucoup appris, je n'avance pas. Donc, c'est des années que tu vas perdre. On ne prend, parce que tu n'as pas pris des petits. Donc, je te conseille, Inch'Allah Ta'ala, de joindre entre les deux. En même temps que tu es en train d'apprendre l'arabe, dans les moments où il y a l'apprentissage, et en même temps, tu prends des autres pour avancer dans le din. Et ne pas rester et aller seulement avec l'arabe, alors qu'il y a mille fautes que tu fais à comprendre des autres. Naam. Donc, essaie, Inch'Allah Ta'ala, de concilier entre les deux, Billah Ta'ala, à condition que les petits remplissent les conditions, Inch'Allah Ta'ala, soit des talibouïens, des salafis, etc. Naam. Wallahu Ta'ala, alam, tfadlal.
Barakallahu fikoum, cher. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fik pour ses fawa'id, alhamdulillah. Je comprends mieux l'importance des invocations telles que Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, jusqu'à la fin. Cheikh, ma question est, peut-on dire si on pense que l'on est plutôt éprouvé par un châtiment qu'une épreuve, que le châtiment est un bienfait, dans le sens où ce châtiment est une purification dans ce bas monde, incha'Allah.
Naam. Et donc, d'abord, pour le hadith qu'elle a cité, qui, masha'Allah, me rappelle beaucoup de choses. Dans le hadith du prophète sallam, où il demande, il dit, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, préservez-moi dans mon corps, fi badani. Ya Allah, préservez-moi dans ma vue. Ya Allah, préservez-moi dans mon oui. Ya Allah, préservez mon cœur. Ya Allah, ceci, cela. Le hadith qui est connu. Tu vois, donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, de te préserver cette chose, ces choses-là. Hein, car s'il ne les préserve pas, hein, s'il ne t'aide pas, et tu ne demandes pas, tu peux faire beaucoup de mal avec ces choses. Voir le haram avec tes yeux, écouter le haram avec tes oreilles, faire le haram avec ton corps. Mais toi, tu demandes, faire le haram avec ton cœur aussi. Hypocrisie, le coffre, etc. Donc, regardez comment Yanni, il faut faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Elle a dit, mais si jamais quelqu'un t'attire par et t'atteint par Yanni, une épreuve éprouvée par un châtiment. Peut-on dire que le châtiment est un bienfait dans le sens châtiment est une purification. Naam, c'est comme ça qu'on doit dire aussi. Quand quelqu'un est atteint, Yanni, par un châtiment, et Allah subhanahu wa ta'ala lui donne. Ici, un châtiment dans ce bas monde, il doit dire en même temps, d'abord, attendez, je cherche le verbe, je le mérite. Allah Ta'ala ne m'a pas fait du tort. Allah Ta'ala ne fait jamais d'injustice, premièrement. Deuxièmement, elle doit dire, je mérite plus que cela. Je suis quelqu'un qui fait plein de péchés. Je mérite plus que cela. Alhamdoulilah. Et troisièmement, elle pense au côté positif du hadith qui dit que chaque mal qui t'arrive, chaque épreuve qui t'arrive, elle fait quoi? Elle absout tes péchés, masha'Allah. Et que si, en plus de cela, tu vas patienter, masha'Allah, tu vas avoir donc des récompenses. Comme ça que doit penser le croyant, le vrai croyant, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne pense de lui que du bien, bi'idhnillahi ta'ala. تفضل.
Question suivante, qui est un peu longue, d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya cher. Ahsanallahu ilaykum wa hafizakum Allah. Vous ainsi que les admins. Je suis une sœur de France. Ma question concerne le fait que la femme assiste à des cours au mesjid. La question se divise en deux cas. Le premier cas, les cours donnés par les femmes à des femmes dans les mesjid. Le deuxième cas, les cours donnés par des hommes de Hajj, Shuyur, dans le masjid, hommes-femmes séparés. Pour le premier cas, les chouyour, le Faouzan et le Medkhali, Hafizahumullah, disent que ce n'est pas connu des salafs, car à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait des cours aux femmes en désignant l'une d'entre elles pour l'accueillir au cours. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a eu la même argumentation en disant que c'était une bid'a inconnue chez les sahabiyat. Les ulama disent qu'il faut que les sœurs se réunissent chez l'une d'entre elles pour les cours afin de se préserver et parce que la place de la femme est chez elle. Voici les liens des fatwas que je vous cite, donc le lien n'est pas passé. Pour le second cas, étant donné que je ne vois pas les hommes donner des cours aux femmes chez l'une d'entre elles, comment faire pour apprendre la science? Nous ne pouvons donc pas assister aux cours des doigts de confiance ou de mashayer qui viendraient sur notre ville. De plus, concernant le premier cas, l'argument disant qu'il faille que les femmes se donnent rendez-vous chez l'une d'entre elles pour les cours, car la place de la femme est chez elle, ne me convainc pas trop. Car que ce soit pour aller au masjid ou chez l'une des sœurs, pour les cours, dans tous les cas, elle devra sortir de chez elle, hormis la sœur qui les accueille chez elle. Je vous pose la question car deux fois par semaine, j'ai cours de tajwid au masjid. Le masjid nous est consacré ces matinées-là. Donc aucun homme ne rentre. Nous ne sommes que des sœurs, plusieurs groupes avec différents niveaux et une prof pour chaque groupe. Je ne me vois pas arrêter car subhanallah wa bihamdi, ces cours sont une ni'ma. Être en groupe donne plus de motivation pour rester ferme dans l'apprentissage. Wa billahi tawfik. En plus, toutes les profs ont le niveau d'enseigner. Certaines sont en cours d'ijaza, Allahumma barik, d'autres l'ont déjà, je crois. Et enfin, alhamdoulilah, ce sont des salafiyat. À la fin de cette longue explication, en conclusion, Puis-je continuer à assister aux cours de tajwid au masjid et qu'en est-il des cours donnés par des hommes au masjid? Les femmes peuvent-elles y assister dans une salle séparée, bien sûr? Barakallahu fikoum, ya cher, de m'éclairer. Hafizakoum Allah. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, rahmatoullah wa barakatuh. Vous m'entendez? Pour la dernière question, qu'en est-il des cours donnés par des hommes au masjid? Les femmes peuvent-elles y assister? C'est ça la sunna. Le prophète salam, pourquoi il dit que les femmes ne les empêchaient pas d'aller à la mosquée? C'est surtout, c'est pas pour la salat. La salat de la femme, la meilleure salat, c'est sa salat dans sa chambre. Pas dans son appartement et encore moins dans la mosquée. Donc c'est sûrement pour aller apprendre. C'est pour ça que le prophète sallam, le jour de l'Aïd, il faisait une exhortation aux hommes. Ensuite, il s'approchait aux femmes qui peut-être n'ont pas entendu pour leur faire une exhortation. Un mohème. Que je voulais dire, le problème, c'est les femmes avec les femmes, pas avec les hommes. Et elle a dit qu'il y a un yain n'est pas passé, mais moi j'ai le fichier. J'ai le fichier des savants, l'Albanais, le Madkhali et les autres, Afidamullah et Rahmullah, de ceux qui ont dit que c'était pas permis d'aller, ils ont cité pourquoi. Mais j'ai toujours cette, comment dire, cette petite qui consiste à dire oui, mais ça c'est dans le cas où c'est possible. Mais il y a des fois des cas où c'est pas possible. Nous sommes dans une ville, là, mais il n'y a aucune sœur qui peut donner des cours chez elle et aucune sœur qui n'a les moyens d'en donner à la maison, par exemple. Elle n'a pas, c'est petit, c'est étroit, son mari ne permet pas, les voisins ne permettent pas, etc., etc. Et maintenant, il n'y a pas d'homme qui donne dans la mosquée. Donc, est-ce que, on va, et il n'y a que des sœurs. Il n'y a qu'une sœur qui donne à la mosquée, par exemple, et il n'y a pas d'homme. Comment qu'on va faire ici? C'est pour cela que moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui est, mashallah, qui est de la science, mashallah, un salafi, un talibouin très fort, mashallah, et qui a dit que c'est permis à cause de, le professeur, c'est ça, pas permis. Il a dit, non, c'est dans le cas où, il y a, comme je viens de dire maintenant, il a dit au temps du professeur Slam, lui, il donnait des cours. Il a dit, mais maintenant ici, il n'y a pas ceux qui donnent des cours. Il n'y a pas d'hommes qui donnent dans la mosquée. Il n'y a que des femmes. Donc comment je vais faire? C'est pour cela que moi je l'ai dit la fois passée. Je l'ai dit, je ne dis pas aux gens, allez assister. Allez assister chez des femmes, car au temps du prophète Islam, les femmes ne donnaient pas de cours, sauf si c'est dans la maison. Mais, si quelqu'un y va, je ne peux pas lui dire arrête. Je ne peux pas dire à une sœur qui va prendre des cours chez une sœur à la mosquée, arrête, n'y va pas. Pour la priver, et la laisser dans la maison. Ça, je ne peux pas lui dire, mais, je ne dis pas comme ça dans les cours, allez, allez. Non, je ne dis pas. Mais s'il y a quelqu'un qui va ou une sœur qui va, je ne peux pas lui dire, arrête, il ne va pas apprendre, car, comme j'ai dit, les temps ont beaucoup changé. Autrefois, le prophète sallam donnait des cours. Maintenant, il y a des fois, les imams qui ne donnent aucun cours. La mosquée est fermée, il n'y a qu'une sœur qui donne. Comment je vais faire? Je ne vais pas apprendre. Allahu ta'ala a'lam. Voilà, tfadlal.
Allah fait comme cher. Question suivante, question d'une sœur qui dit « Salam alaykoum, en parlant de Sulayman, alayhi salam, comme preuve qu'on a le droit de tester les gens, j'ai cru que vous alliez parler du verset dans lequel Allah dit, dans le sens rapproché, et nous éprouvâmes Sulayman en plaçant un corps sur son trône. Pardonnez-moi car je ne connais pas parfaitement le verset. Pouvez-vous m'expliquer ce verset, min fadlikoum? Dans quel sens Sulayman a-t-il été éprouvé par ce corps? Et quel est ce corps? Pardonnez-moi de la longueur de la question, qu'Allah vous récompense ainsi que les admins. J'ai fait une petite recherche, cher, je vais vous mettre la ayah, inshallah. Donc vous répondez.
Naam, alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis juste en train de chercher sa question pour voir ce qu'elle a dit, en parlant de Souleymane comme preuve qu'on a le droit de tester les gens. Taïb. Je lui dis, inshallah ta'ala, que ici ça n'a rien à voir avec le fait de tester les gens. Il y a, inshallah ta'ala, dans ce verset, rien qui a un rapport avec le fait de tester les gens. Ce qui s'est passé ici, c'est que Suleyman, alayhi salam, une fois a dit que je vais m'approcher de 99 femmes, ou bien 100, qui étaient bien sûr toutes, yani, ses épouses, les femmes avec qui, des fois, yani, vous savez qu'en islam, c'est permis de prendre les esclaves, etc., et que, yani, on peut les approcher, etc. Al-Muhim, il a dit, je vais m'approcher de 99 et toutes, elles vont avoir quelqu'un de Masha'Allah qui va être un soldat ou un guerrier gagné parmi l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'armée des musulmans, il va faire le djihad, sabillah, et il n'a pas dit Inch'Allah. Aucune des 99 ou bien des 100 n'a donné d'enfant. Sauf une. Elle a donné une moitié de corps. Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé parce qu'il n'a pas dit Inch'Allah. Alors il lui a donné une seule qui a accouché, et si je puis dire, même si je puis dire, peut-être elle n'a pas accouché, elle a, disons, avorté. Une demi-personne. Et il y en a qui, il l'a vu comme ça, sur le trône ici, ça veut dire sur le trône où il s'assoit, c'est une grande chaise, comme un divan, quelque chose comme ça, où il s'assoit pour recevoir les gens. On le lui a ramené là-bas, il l'a vu. Et il s'est vite prosterné, reconnaissant qu'il avait fait une faute de ne pas avoir dit Inch'Allah. Mais il a dit, chaque femme va donner un mujahid fi sabillah. Et il s'est trompé, Allah subhanahu wa ta'ala lui a corrigé sa faute bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tayyib, Inch'Allah ta'ala, avez-vous une dernière question? Le temps est terminé.
Naam, Cheikh Barakallahu fikoum, en fait, deux petites questions. La première, c'est un frère qui demande, lorsque vous avez cité la doua de Saad ibn Abi Waqqas, est-ce que vous pouvez donner la référence du hadith dans Sahih al-Bukhari, si vous l'avez, Inch'Allah. La deuxième question, c'est un cas particulier, je l'ai laissé pour la fin. C'est une sœur qui dit, une sœur paralysée s'est jetée par la fenêtre à cause d'un djinn. Maintenant, on lui demande de faire de la rééducation à la piscine, en maillot de bain, et c'est mixte. Est-ce qu'elle a le droit ou pas, cher? Barakallahu fikoum.
Une seconde, Inch'Allah ta'ala, je suis en train de lui chercher le hadith, Inch'Allah ta'ala, une seconde.
Je profite de ce temps pour faire une petite demande aux frères et aux sœurs, parce que souvent, c'est les mêmes personnes qui posent des questions. Alors, Bejazéon Khair, qu'avoir les récompenses pour leur volonté d'apprendre le din. Mais c'était juste pour ça ne concerne pas les questions du cours, mais les questions générales. Si vous voyez que votre question peut attendre une semaine de plus ou deux semaines de plus, ou même voir un peu plus encore, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas encore l'habitude, qui n'ont pas les réflexes pour poser les questions, ils se retrouvent à chaque fois parmi les derniers, où il y a des nouvelles personnes qui aimeraient poser des questions. Donc si de temps en temps vous pouvez patienter un peu plus ou autre, Inch'Allah, et laisser d'autres frères et d'autres sœurs poser des questions. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum.
Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc, je n'ai pas Sahih al-Bukhari devant moi. Je lui ai dit que ce hadith se trouve, comme j'ai dit tout à l'heure, dans Bukhari, mais se trouve aussi dans Muslim. C'est pour ça que je viens de trouver maintenant dans un livre qui s'appelle Al-Jama' bayn al-Sahihayn, al-Bukhari ou Muslim. Le regroupement entre les deux livres. Le livre de Bukhari et Muslim. Il l'a cité dans le tome numéro 1, page 97, hadith numéro 183, dans un livre qui s'appelle Al-Jama, regroupement Bayn al-Sahihayn, entre les deux Sahih, Bukhari ou Muslim, écrit par Mohamed Ben Fattouh al-Humaydi. 4 tomes, édition Dar ibn Hazm, Lubnan Beyrouth, deuxième édition, Tahqiq, Dr. Ali Hussein al-Bawwab. Il dit que c'est le numéro 183 dans ce livre, tome 1, page 97. Sinon, rappelez-moi, Inch'Allah ta'ala, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, je vous le donne de Sahih al-Bukhari carrément. Naam, qui a eu ce problème, je lui ai dit, Inch'Allah ta'ala, comme réponse, le prophète Hassan a dit, soignez-vous et ne soignez-vous pas par le haram. Soignez-vous et ne soignez-vous pas par le haram. Vous savez que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guérit. Dans le Coran, il a dit « Wa ida maristu fa alladhi khalaqani fa huwa yahdini wa ida alladhi yut'imuni wa yasqini wa ida maristu fa huwa yashfini. » Il a dit « Lui qui me guérit. Wa ida maristu fa huwa yashfini. » Donc comment maintenant je vais à la piscine, mixte, et avec un maillot de bain, je pose ici une question. Allah ta'ala, dans cette circonstance, il est ravi de moi ou en colère contre moi? Je suis avec un maillot de bain entre yani les hommes et les femmes. Et je suis une femme. Allah Ta'ala est en colère contre moi ou bien ravi? Vous allez tous dire qu'il est en colère contre moi. S'il est en colère contre moi, il va me donner un châtiment ou bien il va me donner la guérison? Il va me donner un châtiment, pas la guérison. Donc, comment vais-je me soigner dans une circonstance pareille? Au contraire, je demande le soin en adorant Allah subhanahu wa ta'ala et en me rapprochant de lui et non pas en le mettant en colère et en lui désobéissant. Voilà inchallah ta'ala pour aujourd'hui. Et regardez, je vous dois, ou plutôt vous me devez 8 minutes. C'est écrit ici, extra time 8 minutes. Donc le prochain cours, inchallah, appelez-moi que vous me devez 8 minutes bidna ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام وبركاته بارك الله فيكم فوزي